Alors, si vous voulez, on va essayer de réfléchir un petit peu sur un thème. La paracha de la semaine, c'est Mishpatim. Mishpatim, normalement, on traduit littéralement, parce que c'est juste après Parashat Yitro, la Torah a fait le don de la Torah, et maintenant, on reçoit toutes les lois qui concernent un petit peu tous les comportements qu'on doit avoir, le pénal, toutes les lois judiciaires qui peuvent exister dans la Torah. On les appelle Mishpatim. Maintenant, on sait qu'il y a deux types de lois dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle les Chukim et les Mishpatim. Des lois, a priori, Mishpatim, c'est des lois un petit peu qu'on peut comprendre. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. De l'autre côté, il y a des Chukim, des lois qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, c'est difficile. Pourquoi les tefillines sont noires? D'ailleurs, pourquoi il faut les mettre? Pourquoi il faut se tremper dans un migvé? Pourquoi on s'assoit dans une souka? A priori, c'est des lois incompréhensibles. Alors, il demande des commentaires. Pourquoi est-ce que Hachem il a voulu faire une Torah où il y a à la fois des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? Si Hachem n'avait fait que des lois compréhensibles, c'est facile, ça s'appelle l'Assemblée nationale. On va établir des principes sur lesquels on a réfléchi, qui sont très logiques. Chacun il a une cause, une conséquence, c'est très simple. Si la Torah n'avait fait que des lois incompréhensibles, ça aurait été facile, ça aurait été bien aussi. Ouais. Tu comprends rien, de toute façon il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, tu n'es pas content, on te coupe la tête. C'est facile. Donc on aurait pu faire une loi où tout est incompréhensible ou alors tout est compréhensible. Et les deux auraient été compréhensibles. Pourquoi ? Si on dit qu'on doit faire des lois compréhensibles, c'est normal, parce que la Torah, elle s'adresse aux hommes, d'accord? Donc les hommes ont un cerveau. Si c'était des chameaux, on aurait dit, bon, écoute, tais-toi et marche. Non, donc on donne des lois compréhensibles, c'est-à-dire des lois qui sont accessibles intellectuellement. Je peux avoir un entendement, un cheminement intellectuel à l'intérieur. Bon, c'est absorbable, c'est des lois compréhensibles. Maintenant, le problème, c'est que si elles sont compréhensibles, c'est parce qu'elles sont adaptées. Si elles sont adaptées, elles sont adaptables. Si elles sont adaptables, elles sont réformables. Il reste plus rien. C'est un problème. Parce que c'est quoi le grand danger? C'est que ce à quoi on accède intellectuellement, on se l'acquiert. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils ont compris quelque chose, ça leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent avec. En vérité, c'est faux. Quelqu'un, il croit qu'il comprend sa femme, alors il se permet de la tromper. Non, c'est pas parce que tu la comprends que tu peux la tromper. Elle t'appartient pas parce que tu l'as compris. Toi, tu crois que tu peux embrouiller parce que tu as compris. Toi, tu crois que tu es clair. Mais les gens, ils se font avoir. Ils se font attraper un jour. Tu dis, ah, comment ça se fait? T'as pas tout prévu, monsieur le grand malin? Eh ben oui, monsieur le grand malin, il est mort. Ah, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de percevoir quelque chose, ça ne te donne pas accès forcément pour le maîtriser. Il faut le savoir. Les plus grandes surprises, on les a des gens les plus proches. C'est tes enfants qui vont te donner les plus grandes surprises de ta vie. Tu ne peux pas imaginer quelles surprises ils peuvent te faire. Oui. Pourtant, tu as l'impression de tout maîtriser. Dans ton travail, tu te dis, c'est pas possible, comment j'ai pu faire un dépôt de bilan? 10 ans de mariage, mais comment ça se fait qu'elle est partie avec mon frère? Tu ne peux pas t'imaginer ce qui peut t'arriver. Parce que plus tu crois que tu maîtrises, plus tu crois que ça t'appartient, plus ça t'échappe. Alors comment avoir une relation? Que d'un côté, tu dois avoir le respect de toi-même, la force d'affirmation, la connaissance, et puis la puissance de raisonnement, la force d'analyse qui fait que tu peux maîtriser les événements. Et en fin de compte, et d'un autre côté, tu dois comprendre qu'au fond, tu ne comprends pas à 100%, c'est-à-dire quoi comprendre. Donc tu as une approche objective de la vie qui est qu'au fond, on ne sait pas grand-chose. Hier soir, j'étais à Montréal, et je parlais avec un grand chercheur. Il m'expliquait que, tu sais, la science, il ne faut pas la dénigrer, mais d'un autre côté, il faut comprendre les limites de la science. Eux-mêmes, ils savent qu'à chaque fois qu'ils ouvrent un domaine, pourtant lui, c'est un grand spécialiste en statistiques médicaux, il fait des conférences à l'INSERM, à la Sorbonne. Il m'a dit, à chaque fois qu'on ouvre un domaine dans la science, on se rend compte qu'on comprend rien. Pourtant, tu dis, mais il y a des facs, il y a des milliers d'élèves, il y a des professeurs, des doctorats, des licences tous les jours. Oui, tout ça, ça fait partie du folklore. Mais en vérité, on sait très bien que plus on avance, moins on comprend. Donc on ouvre un domaine, on comprend rien. Alors, on disait, bon, il y a la médecine, c'est facile. Ah, il est venu la génétique. Ouh là là, il faut tout recalculer. Il y avait Newton, c'était facile. Ouais, tu jettes en l'air, ça descend vers le bas. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Il est venu Einstein. Mais non, le plus court, c'est la courbe. Tout est relatif. Avant, c'était facile. Il y avait les fous et les normaux. Il est venu Freud, il dit tout le monde est fou. Oh là 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 là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu te rends compte que quand tu crois que tu comprends, quand tu crois que tu maîtrises quelque chose, en réalité, ça ne t'appartient pas. D'un autre côté.
Bonjour. Je suis venu écouter des bonnes paroles.
Hazak. J'aurais su, je serais venu avant. Donc, ça veut dire quoi? Où je suis, mon Dieu? Ah oui, je m'excuse, je suis un peu fatigué, c'est le décalage horaire. Alors, je pense que si vous sentez que la bouche, elle parle plus vite que le cerveau, c'est que je suis fatigué. Donc, d'un côté, on aurait pu dire que la Torah, c'est normal qu'elle soit compréhensible, encore une fois, parce qu'elle est adaptée au cerveau de l'homme. Et c'est normal parce que Dieu l'a donnée aux hommes. D'un autre côté, si tu réfléchis, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est Da'at Eloki, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, si, encore une fois, tu as une certaine, ce qu'on appelle une modestie intellectuelle, c'est-à-dire que tu ne te prends pas pour Dieu, ouais. Il y en a qui se prennent pour Dieu. On en a un, il y a 2000 ans, on l'a retenu, d'ailleurs, on l'a accroché pour se rappeler de lui. Mais, c'est-à-dire, c'est des choses qu'a priori, quelqu'un ne peut pas imaginer qu'il va se prendre pour Dieu. Alors si quelqu'un ne peut pas imaginer qu'il va se prendre pour Dieu, comment est-ce que quelqu'un il peut croire qu'il peut penser comme Dieu? Par exemple, Einstein. Vous avez entendu parler d'Einstein, d'accord? Einstein, il a donné... C'est que quand Einstein il a établi la loi de la relativité, il y a 3 mathématiciens au monde qui ont compris de quoi il parlait. 3 dans le monde. Il y en a, ils étaient des milliers, il y en a 3 qui ont compris. Il y a des centres spécialisés de développement des équations d'Einstein. Alors, j'avais entendu à la radio un truc incroyable. En 1905, Einstein il a donné, par exemple, une équation. Une équation. Alors maintenant, les centres spécialisés du CNRS, spécialisés dans Einstein, quoi, carrément, faire le devoir, c'est pas bien. Donc, ouais, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ça enregistré là.
Ouais. Même là-haut, de toute façon, ils filment tout. On repassera ça dans 120 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 1995, ils ont compris qu'est-ce qu'il voulait dire Einstein en 1905. Ça veut dire, imaginez maintenant, Einstein, il est là, il parle, il a parlé maintenant. 90 ans après, on a compris ce qu'il voulait dire. Attendez, quand on dit 90 ans, c'est pas 90 ans, c'est assis, on a attendu que ça se fasse. 90 ans, ça veut dire avec le développement des cerveaux, avec la sélection des cerveaux, avec le développement de l'informatique, avec la sélection, la création de groupes de travail spécialisés dans Einstein, avec l'évolution de ces groupes de travail, pour arriver à comprendre ce qu'il a dit. 90 ans après. Alors, quand imagine, tu rentres dans une classe de maths, c'est Einstein qui fait le cours. Et Einstein, il fait une démonstration. Toi, tu l'arrives, tu l'écoutes, Albert. Je suis d'accord. Alors, Albert, il se retourne, il te dit, écoute. Peut-être c'est faux, mais c'est impossible que toi tu le prouves. Parce que qui t'es devant Einstein, toi? Tu vois? Tu vois ce que tu t'approches du zéro, là, plus l'infini? T'es rien à côté d'Einstein. Alors si déjà, c'est un calvaire première, si déjà tu te sens rien à côté d'Einstein, comment tu peux te croire à la hauteur devant le bon Dieu? Tu dis non, il y a trop de lois, c'est trop compliqué. Il fallait faire une religion sympathique. 613, c'est difficile. 501, à la limite. Mais 613, c'est trop. Fais-en 10, fais-en 2. Tu respectes ton père et ta mère. Mange cachère le jour de ton mariage, c'est important. Lave-toi, va au mikvé. D'accord? Mais, si tu réfléchis, maintenant, la Torah, c'est Data Eloki. C'est l'esprit de Dieu. Ouais. Par exemple, tu as lu Platon. Mais qu'est-ce que tu as lu de Platon? Tu as lu de Platon ce qui a été écrit de Platon. Mais Platon, tu n'as pas absorbé Platon. Tu n'as pas absorbé Aristote. Alors maintenant, Hachem, il vient et dit, voilà, je vais vous donner la Torah. Bon, c'est possible que Dieu a donné la Torah, c'est possible, mais que nous, on l'a reçue, c'est impossible. C'est comme si t'es à Paris, et il y a un type qui t'appelle de New York. Il dit, David, ouais, je suis à New York. Tu sais qu'ils ont inventé un nouveau système extraordinaire, ça permet de catapulter un building. Non, c'est pas vrai, ouais, c'est un truc de folie. Alors, je voulais te dire que pour ton anniversaire, je t'ai offert un building, on l'a mis sur une catapulte, il est sur le bord de la mer, là. Et puis, il est parti, là. Donc, il y a un building qui arrive. Et ben, tu sais, il fait quand même 268 millions de tonnes de béton. Et c'est pour ton anniversaire. Tu sais, c'est pas possible. Et alors, et ben voilà, il arrive. Il est parti à 5 minutes. Je pense qu'il fait du 1800 km/h. Je pense qu'il va arriver exactement dans 7 secondes. Bon, regarde au-dessus de ta tête, tu dois voir arriver un truc, là. On peut envoyer un building, mais on peut pas le recevoir. Le mec qui l'a reçu, il pourra pas le raconter. Il est mort. Parce que tu ne peux pas recevoir 260 millions de tonnes de béton. Maintenant, Dieu, il a peut-être donné la Torah, mais nous, comment on a pu la recevoir? On a un petit cerveau, très petit. Et en plus, il est restreint ce cerveau parce qu'à chaque fois, on dit je. Je pense que moi, d'après moi, d'après moi, d'après moi. Et moi, en psychiatrie, c'est MOI, c'est un code. Ouais. C'est très petit, c'est restrictif. Donc si quelqu'un il va dire que la Torah, elle est adaptée à l'homme, et ce serait normal parce que Dieu il te l'a donné à toi alors qu'il te donne quelque chose qui est adapté. D'un autre côté, tu dis mais la Torah c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu c'est pas adapté à un homme. Mais qui c'est un homme pour absorber l'esprit de Dieu? Tu sais même pas comment il fonctionne. Tu respires. Là, tu respires. Dis-moi, tu sais par où il va l'oxygène pour arriver à tes poumons? Tu sais comment ton cerveau il est oxygéné? Non. Ben alors arrête de respirer. En vérité, on comprend pas grand chose. Vous savez, un jour il y a un gars, il a voulu faire ce qu'on appelle une encyclopédie de l'ignorance. Il a mis que les titres. Ce qu'on ne sait pas. Nous, on fait ce qu'on sait. Parce que l'homme, il veut perpétuellement se rassurer. Alors, il crée des écoles, il crée des systèmes, il crée des bibliothèques, il crée des facs pour dire regarde ce que je sais. Un jour, il y en a, il était malin. Sur 6 milliards, c'est bien, non? Il a dit tiens, au lieu d'écrire ce qu'on sait, il va écrire ce qu'on ne sait pas. Mais pas développer que les titres. Ce thème, on ne sait pas. Et au bout du 4e volume, il a arrêté. L'encyclopédie de l'ignorance, ça s'appelle. Ça existe. C'est incroyable. Donc maintenant on a un problème. Encore une fois, nous, on se pose la question. Pourquoi est-ce que Dieu, il a mis des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? S'il avait mis que des lois incompréhensibles, on aurait compris, parce que c'est l'Esprit de Dieu, donc on comprend rien. S'il avait mis que des lois compréhensibles, on aurait compris, puisque c'est adapté à nous, donc il faut qu'on comprenne. Mais il n'a pas fait ou l'un ou l'autre, il a fait les deux. Ça fait une grosse pagaille. Vous savez pourquoi ça fait une grosse pagaille? Parce que pourquoi dans notre communauté, il y a des gens hyper religieux, hassides, qui étudient toute la journée dans un mikvé, et des gens qui te font une tova une fois par an en mangeant kasher? Qu'une kippa pour eux, c'est une allergie, qu'un tzitzit, c'est de la superstition. Comment ça se fait? Vous n'êtes jamais demandé pourquoi? Pourquoi la communauté, elle est plurielle? Pourquoi il y a tellement de disparités? Aucun rapport. Tu prends un vrai chassid, d'accord? Un vrai chassid que son fils, il connaît le Talmud à 14 ans. Et tu prends un vrai, pas un assimilé, un degoumilé. Loin, 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 loin. Tu dis Israël, et tu dis yes, falafel, Natania, Elat. Non, Israël, la Torah. Torah, maze, Torah, Mechila. J'étais à Montréal et je parlais avec des responsables communautaires. J'ai dit oui, on est intéressé à votre discours, mais il faudrait vraiment le porter sur la tendance psychologique. Alors j'ai pensé à quelqu'un qui m'avait dit une fois que ces mêmes personnes-là, quelqu'un leur a dit, vous voulez pas que Ben Chetrit il vienne pour parler dans les conférences de la visio, je sais plus quoi, de l'entente féminine. Il parle anglais là-bas, vous savez. Il a dit, it's too Jewish. C'est trop juif. Comment un juif, il peut dire c'est trop juif? Comment un juif, il peut dire sur un juif, c'est trop juif? Non, lui, tu vois, il est trop typé, il est trop juif. Mais je comprends pas, les nazis, ils n'étaient pas racistes. Et tous les juifs, ils les ont pris, religieux, pas religieux, tunisiens, marocains. Tout le monde avait le droit de mourir. C'est bizarre, non? Comment on peut être plus raciste qu'un nazi? Comment on peut être plus antisémite qu'un nazi? Ah non, mais ça, c'est trop juif, ça, c'est trop... Ouf, oh la kippa, les trucs, oh là là, on dirait... Ça me rappelle le judaïsme. Mais pathos, mais presque. Et c'est quoi cette logique? La logique, elle est que justement, parce qu'il y a des lois compréhensibles et parce qu'il y a des lois incompréhensibles, qu'il y a des gens qui ont pris le côté compréhensible, donc ils ont voulu aller avec leur intérêt, avec leurs intérêts, avec leur culture, donc ils ont été du côté culturel de la Torah. Il y en a le contraire, ils ont pris le côté, mais c'est la loi de Dieu, c'est la crainte de Dieu, mais comment on va se permettre de discuter avec le bon Dieu? Donc ils ont mis la barbe et ils ont mis les tzitzit. C'est à cause de ça. Vous me suivez ou non? C'est parce que la Torah, elle contient et des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles qu'il y a une telle pagaille dans la communauté. Parce que s'il n'y avait que des lois incompréhensibles, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'es pas content? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu dis, je comprends pas, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Mais c'est pas grave. T'es pas obligé de manger cachère. On fait pas du prosélytisme. On n'essaye pas de convertir les gens. À plus forte raison, les juifs, on n'essaye pas de les convertir. Ah bon? Ah ben oui, t'as le choix. Ça s'appelle le libre arbitre en français. Fais ta vie. Si t'as un problème, si t'as un souci, t'as une angoisse, ne viens pas voir le rabbin. Va demander une bracha à Arthur. Va te bénir. Qu'est-ce que tu vas chez le rabbin? Ah, c'est le rabbin, je suis perdu. J'ai fait le tour de tous les médecins, j'ai vu les psychiatres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mon fils? Qu'est-ce que je te dis, mon fils? Qu'est-ce que je fasse pour ton fils? Non, mais vous comprenez, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il faudrait l'aider, il est perturbé, il est mal dans sa tête, il manque de sens, il manque d'orientation. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris, c'est quoi ta question? Ah ben, je voudrais que vous m'aidiez. Mais pourquoi tu te rappelles que quand tu as un problème? Pourquoi tu te rappelles du rabbin que quand tu as un problème? Va chez ton psychiatre, mais il comprend rien, lui-même il est fou, il m'a proposé de coucher avec ma femme pour apprendre à aimer mon fils. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit que dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de faire les deux, puisqu'on a dit que ce que la Torah elle perd, c'est qu'il y a la disparité dans la communauté, on a vu tous les problèmes que ça peut provoquer, d'accord? Et d'un autre côté, Dieu, il a quand même voulu. C'est-à-dire que Dieu, il a plus à gagner de la différence de loi compréhensible en compréhensible, Chouki Mishpatim, que ce qu'il perd. Nous, on voit ce qu'il perd. Mais Dieu, il pense qu'il a plus à gagner. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on gagne à cette différence par rapport à ce qu'on perd. C'est clair? C'est bon? On n'est pas fatigué? Quel enthousiasme! Alors, regardez ce qui est marqué ici. A priori, je suis marrant normalement, mais là, je suis fatigué. Donc, ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué Le Olam Ilmod Adam Ma Shelibo Chafetz. La Torah dit un homme étudie toujours ce qu'il désire étudier. Alors tu dis, c'est trop sympa ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? Une fois, un type est venu chez moi, il m'a dit, ah, Rav, je voudrais me convertir. Je dis pourquoi ? Il m'a dit j'adore l'ambiance du Shabbat. Je dis bah convertis-toi à la religion des boulettes. Pourquoi tu prends la religion juive ? L'autre il m'a dit moi j'aime bien les histoires, le côté philosophique, tout ça. Mais il y a aussi la Lacha, il y a aussi des lois. Il m'a dit moi j'aime bien le côté merveilleux du judaïsme. Je dis mais il y a aussi la Shoah dans le judaïsme. Il y a beaucoup de choses dans le judaïsme, il n'y a pas que du bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es obligé de regarder les choses dans leur globalité. Comment on appelle ça ? On appelle ça Torah Tachem Temima. La Torah d'Hachem, elle est Temima. Temima, c'est quoi ? Elle est entière. Entière, c'est que tous les éléments, ils sont interactifs les uns avec les autres. Par exemple, vous étudiez la mitzvah de Souka. Souka, c'est une mitzvah de s'asseoir pendant une semaine dans une Souka. Maintenant, pour connaître les lois de Souka, il faut aussi connaître les lois du Shabbat. Parce qu'il y a des parois, et ça, c'est fini en Shabbat. Il faut connaître aussi les lois de pureté, parce qu'il y a des dinim de Taharot. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la Souka ? Il y a plein de lois qui sont interactifs les uns avec les autres à l'intérieur de la Souka. Alors, tout est pareil. Pourquoi ? Parce qu'on dit la Torah elle ressemble à un corps. Alors dans un corps, il y a 613 éléments dans le corps. Il y a 248 membres et 365 nerfs et artères. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut se passer d'un membre dans le corps ? Est-ce que tu peux dire enlève ? Enlève un petit doigt, enlève un bras, enlève un rein. Avec un rein, descendu ou non ? On peut enlever un. C'est vrai, on peut enlever un. Mais est-ce que la personne elle aura les mêmes capacités ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui, c'est prouvé.
T'as essayé ?
Mais non,
il faut se méfier de la médecine. Parce que des fois, elle met des années à se rendre compte et c'est après ta mort qu'elle t'explique que c'est dangereux pour toi. Donc, ça veut dire que chaque élément. C'est dangereux aussi.
Ah bon ?
Ouais. Les appendicites aussi, c'est dangereux. Pire encore, dans la médecine chinoise, on dit que celui qui a subi une intervention chirurgicale, son flux énergétique, il est détourné. Son flux énergétique. Vous savez, le corps, il y a des méridiens à l'intérieur. Les méridiens, ils véhiculent l'énergie. Non, c'est la même chose. En médecine allopathique, on dit qu'il y a un flux électrique qui véhicule toutes les informations dans le corps. Les Chinois, ils disent que c'est de l'énergie. Nous, on dit que c'est la neshama. Ça change rien. C'est juste le mot qui change. Bon, attends, on va faire médecine maintenant. Maintenant, regardez ce qui est marqué ici. Par exemple, le lobe de l'oreille. Si quelqu'un se fait couper le lobe de l'oreille, c'est-à-dire que ça fait perdre quelque chose ou non ? Le lobe,
c'est-à-dire c'est un esclave.
Oui, t'as raison. Non, c'est là, par exemple, cette semaine. Mais non, mais je parle au niveau médical. Si quelqu'un se le fait couper, ça change quelque chose ou non ? Oui, non, oui, non, oui, non. Les neurologues, ils ont dit que oui. Parce que, vous voyez, par exemple, au niveau de l'équilibre, de l'orientation dans l'espace, vous savez qu'à l'intérieur de l'oreille, il y a une espèce de truc de liquide, je sais pas comment ça s'appelle, qui donne une espèce de variateur. Ce variateur, il fait que vous arrivez à vous déplacer dans l'espace. Souvent, par exemple, des gens qui ont des problèmes de sifflement dans l'oreille, c'est lié à des problèmes neurologiques et c'est lié à des problèmes d'équilibre. Maintenant, ce problème d'équilibre, c'est juste une petite variation. Maintenant, quelqu'un, il a eu un accident de moto ou de voiture, il a reçu un choc au niveau du crâne qui a développé un petit déséquilibre de rien du tout, d'un micron. Et le déséquilibre entre les deux, d'un micron, il crée un déséquilibre au niveau neurologique qui fait qu'il a des vertiges, par exemple, quand il prend un escalator. Ou que dans certains cas, il perd complètement pied, il perd panique, il prend panique ou quoi. Il dit ça, il a dit le fait d'enlever un morceau de chair au niveau de l'oreille. C'est-à-dire le lobe, tu peux pas l'enlever, le petit doigt, tu peux pas l'enlever, tu peux enlever. Parce que le corps, il est complet. Or, le corps, c'est une image physique de la Torah. Et la Torah, elle est complète. Chaque élément, il est complet. Et moi, je prends ce morceau-là, je prends pas le morceau-là. Alors, on a un problème. Parce que c'est marqué Le Olam il Modada, ma chérie Bochafetz. Un homme désire ce qu'il a envie d'étudier. Étudie ce qu'il a envie d'étudier. Alors je dis, alors si c'est quelqu'un qui va selon son envie, alors, ça je prends pas, mais c'est impossible ça. C'est une entité. Comment on peut enlever quelque chose ? Alors là-bas, il explique une chose incroyable. Il dit, ça veut dire quoi ? Les Olam, il mode Adam, Machéli, Bochafet. Un homme désire étudier ce qu'il a envie d'étudier. C'est quoi ? C'est comme ça. C'est que. Je vous donne la phrase. Ikar, Pnimiou, Divrei, Arav, Ena, Nishmaïn, Ela, Letalmin, Arotse, Beyoter, Nishmoa. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav ne sont perceptibles qu'à un élève qui désire intensément les entendre. Ça veut dire que votre capacité de comprendre, ou d'entendre déjà, elle dépend de votre capacité, votre désir de comprendre. Ça s'appelle le double discours. Alors je donne toujours l'exemple des parents, c'est plus facile à comprendre. Le père, il dit à son fils, fais ça. Évidemment, le fils, il ne fait pas. Alors le père, il dit, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ? Alors il dit, le fils, il dit, j'ai fait ce que tu as dit. Elle dit, non, mais le père, il dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il dit, ouais, mais tu m'as pas dit ce que tu voulais dire. Tu m'as dit ce que tu as dit. Alors moi, j'ai fait ce que tu as dit, je n'ai pas fait ce que tu voulais dire. Il dit, mais ce que je veux, tu le sais très bien.
Ah, vous rentrez tôt dans les détails, là. J'arrive plus à suivre.
Pourquoi ?
Je sais pas ce qu'il a dit, je
sais plus. Ah, je parle vite, je le refais en doucement. Non, c'est très important, ça peut changer votre vie. Regarde, le père, il dit à son fils, fais ça.
Ouais.
Le fils, il fait pas ça. Il faut autre chose.
Ouais.
Alors le père, il dit, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Pourquoi tu n'as pas fait? Par exemple, je t'envoie à l'école, je te paye tous les mois. Pourquoi tu fais? Bon, ça va. De toute façon, je vais l'avoir mon BTS. Puis si je l'ai pas, je m'en fous, je peux travailler sans diplôme. Mais moi, je paye tous les mois. Yahman, pourquoi tu vas pas? Elle ne va pas, elle va te balader alors. Et pourquoi je paye? Alors pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors tu dis, bon, j'ai fait ce que tu as dit. Alors tu dis, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il dit, mais c'est ce que tu as voulu dire, je ne le sais pas. Tu n'as qu'à le dire. Maintenant, les gens, ils disent pas ce qu'ils veulent. Ils disent des choses, mais ils disent pas ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est à toi de comprendre ce que l'autre il veut à travers ce qu'il dit. D'accord? Mais ça serait plus simple si les gens ils disaient vraiment ce qu'ils veulent. Mais premièrement, des fois, ils le savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Puis après, peut-être des fois, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent. Alors toi, tu dis, il faut que je découvre ce que tu veux. Ça, ça existe beaucoup dans le syndrome de amoureux.
Parce qu'on peut paraître bête aussi si on dit, ce qu'on veut.
Pourquoi?
Si par exemple, Julien m'a acheté une nouvelle voiture et je lui dis, elle est belle ma voiture. Ah,
pourquoi pas?
Même si je l'amène à la voiture plus propre et tout et qu'il lui dit tout seul.
Alors
c'est mieux.
C'est mieux parce qu'il a suscité chez lui. Pas parce que, mais ça, c'est une incidence sur l'autre. Mais toi, par rapport à toi, t'es heureux, t'as le droit de dire t'es heureux, non? T'as le droit de dire ou tu dis, ah, pour qui il se prend celui-là?
Non,
ouais, c'est pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que dans n'importe quelle situation, il y a toujours la situation et il y a l'intériorité de la situation. En français, on dit il faut savoir lire entre les lignes. Comprendre qu'est-ce que, au fond, le type, il veut. Tu dis qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il y a ce qu'il a dit, il y a ce qu'il a voulu dire. Par exemple, moi, je viens avec vous pour développer un thème. Bon, j'ai une heure et demie. En vérité, le thème, pour moi, il m'a pris à peu près 5 ans de préparation. Maintenant, je ne suis pas foncièrement idiot. À 17 ans, je dictais des disserts de philosophie pendant le dessin industriel. Donc, je ne suis pas foncièrement idiot. Alors, comment est-ce que vous allez comprendre en une heure et demie ce que moi, j'ai mis 5 ans pour comprendre? Alors, il y a deux solutions. Soit vous allez essayer de comprendre ce que je dis, soit vous allez essayer de comprendre ce que je veux dire. Maintenant, ce que je veux dire, je l'ai. Je l'ai en moi et je veux vous le dire. Maintenant, ce que vous allez recevoir, vous, c'est pas ce que j'ai, c'est ce que je suis. Maintenant, ce que je suis, c'est la finalité de ce que je suis devenu. Ce que je suis devenu, c'est moi. Maintenant, moi, ce que je vais vous transmettre, c'est une énergie, ce que je contiens. Maintenant, à la fin, vous n'aurez peut-être pas le déroulement intellectuel de ce que j'ai dit, mais vous aurez la sensation de ce que j'ai voulu dire. Vous avez senti la différence? Non? Oui? Non? Vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est pas ça.
Ça va trop vite. Fin de journée. Prenez l'avion toute la nuit, quand vous arrivez, avec le décalage, vous êtes super. Non, si vous ne comprenez pas, dites-le-moi. J'étais trop vite, là? Oui? Non? Bon, je vais vous donner un truc. Écoutez ça. Quand on fait une démonstration, on fait des démonstrations à l'école, d'accord? Enfin, A égale B égale C égale D égale E égale F. Alors, comment vous savez que A égale F? Ben parce que c'est une série de, je ne sais pas comment on dit, d'égalité, ouais, et d'application. Donc A égale B égale C égale D égale E égale F. Alors, écoutez bien cette question. Est-ce que j'ai compris maintenant que A égale F? Parce qu'on m'a démontré que A égale F. Et moi, j'ai compris que A égale B et je suis d'accord. Et j'ai compris et B égale C et C égale D et D égale E et E égale F. Et puisqu'il y a une relation d'égalité, donc j'ai compris que A égale F. D'accord? Première version. Deuxième version, ça n'a aucun rapport. C'est quoi? C'est qu'en vérité, pourquoi j'ai compris que A égale F? C'est-à-dire que j'ai atteint ce niveau de maturité intellectuelle de comprendre que A égale F. C'est parce que je suis resté concentré pendant, disons, 3/4 d'heure qu'a duré la démonstration, et cette obligation que j'ai eue d'être concentré parce que la démonstration m'obligeait à me concentrer, c'est ça qui m'a donné la perception de A égale F. Ça va? Donc, est-ce que la compréhension, c'est une accession de maturité, ou est-ce que la compréhension, c'est une finalisation de démonstration? Oui, non? Vous voulez la preuve? Tu fais un BTS de compta pendant 3 ans, d'accord? L'autre, il a appris sur le tas. Je ne comprends pas, comment ça se fait que le mec a appris sur le tas, il comprend la même chose que moi, mais il n'a pas fait d'école. Ta grand-mère, elle avait une façon de comprendre de Shalom Bayit, et toi, tu as fait 10 ans de psychanalyse, comment ça se fait? Toi, au bout de 10 ans de psychanalyse, elle te dit, mais il fait, voilà, parle-lui comme ça, dis-lui comme ça, et ça ira très bien. Tu m'as mis, c'est exactement, tu as montré la conjonction qui peut exister entre le syndrome du mal existentiel confondu avec le malaise du père par rapport au regard de la mère, et l'interaction qu'il y avait entre les deux sœurs a provoqué chez lui ce manque, et ce manque-là, il a développé chez lui un espace dans lequel sa peur est développée. Mais c'est pas ça, il n'est pas bien ce petit, dis-lui que tu l'aimes, mais ça va aller. Dis pourquoi la grand-mère, elle a compris avec 10 ans d'affinat ce que toi t'as compris en 10 ans de psychanalyse, si tu es sorti normal de ta thérapie, ouais. Donc, c'est bizarre, non? Comment ça se fait? Alors, je te répète pourquoi. Parce que. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Je sais que vous êtes fatigué, mais c'est pas grave, regardez. Est-ce que je comprends quelque chose parce que j'ai suivi une démonstration, ou la démonstration m'a obligé à me concentrer, et c'est la concentration qui m'a donné la perception, la compréhension? Vous sentez la différence? C'est comme si tu dis, oh, j'aimerais bien savoir comment c'est en haut de la tour Eiffel. Eh bien, tu montres. Tu dis, mais quand j'arrive en haut de la tour Eiffel, je vois la tour Eiffel, je dis, oh, c'est une vue de folie. Maintenant, pourquoi je vois? Parce que je suis monté. Non, on aurait pu me déposer en hélicoptère. Ouais. Donc tu vois bien que j'ai pas eu besoin de monter les marches de la démonstration pour comprendre. Donc pourquoi tu comprends? C'est ce que ça veut dire comprendre en français. Comprendre, c'est comme saisir. Maintenant, quel rapport entre comprendre et saisir? Regardez, par exemple. Là, je saisis la table. Ouais. Comment je peux saisir une idée? Voilà, je te dis une idée. J'ai saisi ce que tu veux. Mais ça veut rien dire en français. J'ai saisi une idée. Comment tu l'as saisi, l'idée? En vérité, comprendre, comment vous l'écrivez comprendre? Avec un M ou avec un N?
Un M et un N.
Attention.
Ah oui?
C'est pas le même sens, d'abord.
Si, c'est O-M-P-R-E-N-D-R-E-N.
Ah, excuse-moi, tu m'as fait peur. D'accord. Mais la première syllabe, avec un N ou un M?
Un M.
Attention, ça change complètement le sens. Comme le contexte, si tu enlèves le texte, il reste le... D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre, ça s'écrit avec un M. Maintenant, pourquoi comprendre, ça s'écrit avec un M? En vérité, pourquoi? Hein? Non, c'est parce que... Détendez-vous, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous pousse à écouter la réponse. Ça n'a aucun rapport, sinon ça serait un débat. S'il y a un débat, il y a un déo. Regardez, comprendre, c'est comme prendre. Comprendre, c'est comme prendre. Prendre, c'est saisir. Tu dis, mais quel rapport entre comprendre et saisir et attraper? Ouais, je vous donne la logique. C'est écrit dans la Torah, Ve Adam yada et Hava. Adam a connu sa femme. Là-bas, de quoi on parle? Évidemment qu'il a eu des relations sexuelles. Mais la Torah, elle le parle dans un langage propre. Elle dit, Adam a connu sa femme. Alors, il demande le Maharal, pourquoi est-ce qu'on a employé le langage de la connaissance pour la relation? Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit, parce que savoir, c'est faire corps avec sa connaissance. Savoir, c'est faire corps. Alors, je vais vous le traduire en français. Par exemple, là, imaginez, vous faites de la compta. Je parle de l'action commerciale, n'importe quoi. Donc, on vous a expliqué l'action commerciale, donc la correspondance entre le produit, le besoin du client, la perception, la communication, l'impact. Tout ça, c'est de la théorie. Maintenant, tant que tu n'es pas devant un mec avec ton aspirateur à essayer de lui vendre, tu n'as rien compris. Tu dis, non, j'ai bien compris, développement, impact, 100 000, 400 000, retour, 4% investissement, cours. Non, tu vas monter la jolie un dimanche après-midi avec un aspirateur et vends-le à un mec. Vas-y, tape à la porte. Mais je vais me faire tuer, c'est que le début, baba. Maintenant, quand tu l'as vendu, l'aspirateur, tu as compris ce qui déclenche, tu as vu le regard, tu as su quand est-ce qu'il fallait lui parler du prix, tu as essayé de créer la confiance, tu as créé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Maintenant, tu es devenu un vendeur. Ça veut dire que comprendre, c'est vivre ce qu'on pense. Comprendre, c'est faire corps avec la connaissance. Maintenant, tant que tu ne vis pas ce que tu penses, peut-être que tu ne penses même pas ce que tu penses. Par exemple, toi, t'es avec cette fille depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que tu lui dis que tu l'aimes, d'accord? Mais t'arrêtes pas de sortir avec des autres filles. T'es au malade mental. Non, c'est aucun rapport. Moi, je conjugue l'amour au pluriel. Y a elle, y a les autres. Pourquoi décevoir les autres alors que je suis capable d'assouvir 5? Mais t'es un malade. Mais elle, tu lui dis, tu seras la seule, tu seras l'unique, tu seras... Mais je leur dis à chacun. À chacune. T'es schizophrène ou quoi? Mais ça fait 4 ans que t'es avec elle. Elle te dit, bon, chérie, est-ce qu'on va se marier? Tu dis, c'est impossible, t'es tunisienne. Hein? Elle dit, mais je suis tunisienne depuis le début. Non, mais j'ai jamais voulu t'épouser. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Et ben, tu m'as dit, dis-moi que tu m'aimes. Et j'ai dit, je t'aime, tu m'aurais dit, achète-moi un vélo, je te rachète un vélo. Mais t'es un malade. Mais tu m'as menti. Au contraire, je t'ai fait rêver. T'es contente? 4 ans, t'as rêvé. T'as rêvé que t'étais heureuse, t'as rêvé que t'étais l'unique, t'as rêvé que t'étais belle, t'as rêvé de tout. Super pour toi. Dis merci pour les 4 ans de rêve que je t'ai donné. Mais pourquoi t'arrêtes maintenant? Bah écoute, je suis en fin de cycle, au bout de 4 ans, il faut que je trouve une autre. Hein. Je suis muté à Rouen, il me faut une meuf de Rouen, je vais pas me prendre la tête avec une fille de Paris, appelle-moi, viens, on va se voir, où t'es, tu me manques. Hein, s'il te plaît, faut être pratique. Je vais pas travailler à Paris et dormir à Rouen, c'est normal. Je dors là où j'habite, d'accord? Super. Je viens de comprendre ce que c'est la déception. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre, c'est vivre ce qu'on pense. Savoir, c'est vivre ce qu'on pense. D'ailleurs, moi, mes élèves, enfin ceux qui se présentent, qui se prétendent mes élèves, je leur dis toujours, voilà, tant que vous ne vivez pas ce que vous avez, ne dites pas je sais. Dites je ne sais pas. Je dis, écoute, ça n'a aucun sens. Il y a la connaissance et puis il y a le vécu. Mais non, tu vois les trois quarts des gens qui font des lourdeurs. Quand tu leur dis, mais tu sais que c'est pas bien, le mec il dit, ouais, je sais, ça va, je sais. Bon, c'est bon, commence pas à me saouler, je sais. Mais JH2, c'est de la chimie. Jeune Hamar au carré. Si tu le savais, tu l'aurais pas fait. À quoi ça sert d'être cultivé si t'es con? Je le sais, mais je suis con. Ah ben, à quoi ça te sert? Tu prends une vache, tu mets un panneau dessus, tu mets diplôme. Il se balade.
En français, on appelle ça un bœuf. Les bohémiens appellent ça un beauf.
D'accord? À quoi ça te sert de savoir si t'es un beauf? À quoi ça te sert de savoir? À quoi ça te sert? Tiens. Vous êtes d'accord? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance ne sert à rien si elle n'est pas vécue. Au contraire, elle génère des malentendus. Parce que comme toi, tu crois que tu sais, donc tu fais des choses en fonction. Mais en vérité, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu ne le ferais pas. Regarde un truc bizarre. Imagine, tu sors de la choupa avec ta kala. D'accord? Tu dis, chérie, on vient de se marier, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu seras fidèle? C'est une question comme ça, une formalité, bon, pour être clair. Alors elle te dit, écoute, franchement, objectivement, intellectuellement, je ne veux pas savoir, ça dépend avec qui. Ça sent mauvais, là. Tu sens que la fille, elle est un peu... Tu sais, pensais que c'était une fille de famille, finalement, c'est une fille halal, fais attention. Ouais. Tu la ramènes, tout de suite, tu reviens, tu dis, viens, on repasse ce film en arrière, je reprends la bague, on arrête tout. Pourquoi? Bah, parce qu'elle n'est pas claire. Moi, j'ai pas de télé à la maison. Mais bah, au Hachem, avec les coups de téléphone que j'ai, mais je suis en pleine science-fiction. En pleine. Une fois, il y a un monsieur qui m'appelle, une femme, elle m'appelle, écoutez, Herman Chetri, je suis mariée avec 5 enfants. Mon mari, je viens d'apprendre qu'il me trompe avec ma meilleure amie. Souvent, ça se passe avec la meilleure amie. Parce que la meilleure amie, elle ressemble à la femme, mais elle n'a pas les défauts de la femme. Elle n'est pas obligée d'être une femme de maison. Il ne reste plus qu'à être une femme fatale. Et comme elle ressemble à la copine, à la femme, donc c'est plus facile de sortir avec elle, puisqu'elle a les mêmes caractéristiques que la femme, parce que si elle s'aime, c'est qu'elle se ressent. Donc, mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie. D'accord. Alors, le mari vient, on lui parle pendant 4 heures, t'es malade, t'as père de famille, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, mais qui tu te prends? Bon, le mec, il a compris, il a rien dit. D'accord, appelle ta maîtresse, il prend le téléphone, il appelle la maîtresse, il dit, écoute, c'est fini, c'est terminé, toi aussi t'es marié, t'as 3 enfants, c'est impossible, on arrête tout. Qui c'est qui téléphone à 1h du matin? La maîtresse, elle m'appelle à moi, elle me dit, comment avez-vous osé casser un couple? C'est la maîtresse maintenant. Elle parle du couple avec son amant. Elle me demande comment moi j'ai osé briser un couple. J'ai dit, écoutez madame, moi la science-fiction, j'ai arrêté très jeune. Il faut me remettre dans le contexte là. Vous êtes mariée, vous avez un mari. Elle, lui, il a une femme. Maintenant, lui, il a trompé sa femme. Vous avez trompé votre mari et les deux ensemble. Et vous me dites que moi j'ai brisé un couple, mais vous en avez brisé deux. Comment les gens ils peuvent être tellement débiles? Non, mais vraiment, la fille, elle est sérieuse. Elle dit, ouais, c'est mon âme sœur. De toute façon, j'ai tout de suite compris que c'était lui. Et puis, j'ai bien vu, il est en carrément avec mon mari. Et puis, j'ai une vibration que je n'ai pas avec mon mari. Je dis, enfin, madame, si vous pensez que c'est lui, c'est très simple. Vous divorcez avec votre mari, vous assumez votre divorce, vous réglez les problèmes psychiatriques avec vos enfants de divorcer maintenant, vous gérez tout, et après, vous mariez avec l'autre. Et lui, entre-temps, il a fait la même chose de son côté. Ah non, non, c'est trop long. Mais quel âge vous avez, madame? Elle me dit, 32. Non, non, non. 8,5 maximum. Comment tu peux te mettre dans une situation pareille? Il dit, mais je l'aime. Mais le cœur, c'est pas un truc qui fabrique de la mayonnaise. Ça aide à réfléchir aussi. Comment tu peux être dans une situation pareille? Pourquoi? Parce que les gens, ils n'apprennent pas à vivre en fonction de ce qu'ils savent, et ils n'apprennent pas à penser ce qu'ils pensent. C'est très important. T'es marié, tu dois le penser, et surtout, tu dois le vivre. Le mariage, c'est une conscience perpétuelle. Tu travailles, c'est une conscience perpétuelle. T'es juif, c'est une conscience perpétuelle. Tu dis, bon, je sais que je suis juif, mais bon, ça va, je mange du porc, ça va, on va pas. Non, mais la définition du juif, c'est un vécu, c'est pas intellectuel. Là, il m'a dit, Rav Ben Chetrit, pourquoi vous n'allez pas aux 12 heures pour Israël? Je dis, parce que Israël, c'est pas 12 heures par an, c'est toute l'année. C'est pas du folklore. Les boulettes de tatamimi ne sont pas dans le nombre des mitzvot. Tu mets tous les vendredis, je mange des boulettes de tatamimi. C'est bien, c'est gentil, c'est l'ambiance. Mais c'est un carapace que je dis. Mais quand même, il y a un certain esprit du Shabbat. Non, Shabbat, les chaussures, de quoi tu parles? Qui dit cette logique, c'est simple. C'est que tant que quelqu'un ne vit pas ce qu'il sait, en vérité, c'est même pas sûr qu'il le sait et c'est même pas sûr qu'il le pense. Parce que toi, tu dis que tu aimes ta femme, mais tu la frappes. Peut-être tu l'aimes pas. Toi, tu dis que tu aimes ton mari, mais tu n'arrêtes pas d'insulter. Peut-être tu l'aimes pas. Toi, tu dis que tu aimes tes enfants, mais tu les fuis tout le temps. Peut-être que tu les aimes pas, c'est pas grave. Tu dis, ouais, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que j'aime pas mes enfants, mais c'est moi qui les ai accouchés. C'est pas grave. Ça s'appelle un décalage psychiatrique entre ce que tu penses et ce que tu vis. Maintenant, ce que tu es, c'est ce que tu penses ou ce que tu vis? Sur quoi vous jugez les gens, vous? Sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils disent? Hein?
Les deux.
Les deux? C'est dangereux. Parce que si, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent vraiment. Mais ce qu'ils disent, peut-être que c'est pas ce qu'ils pensent. Ça s'appelle le décalage du discours. Je te dis, ça fait 4 ans qu'il dit qu'il t'aime. Et je te promets, quelle déclaration, combien de SMS, c'est toi. On dirait un parkinsonien tellement il l'a fait. C'est pas possible. Alors? Et après, tu dis, il n'y a jamais rien eu. Oh, je t'ai jamais aimé. J'ai apprécié tes valeurs morales. T'es une bombe sexuelle pour moi. Non, mais j'ai aussi un cœur. Mais non, le cœur, ça crée des problèmes. Oublie ton cœur. Comment j'ai pu rester 4 ans avec un mec comme ça? Parce que t'as voulu y croire. C'est ce qu'il a dit Chirac. Il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez pas? C'est que le choix d'être bête t'appartient. Maintenant, si le malin, il en profite, c'est tant pis pour toi. Regardez, dans le monde, il y a des malins, et il y a des imbéciles. Maintenant, c'est une grande discussion philosophique que vous pouvez avoir aux toilettes. Est-ce que ce sont les malins qui fabriquent les imbéciles, ou est-ce que ce sont les imbéciles qui fabriquent les malins? Et tu dis, ouais, je me suis fait avoir, il a profité de moi. D'accord. Dis-moi, ça fait 4 ans. Au bout de 6 mois, tu avais compris. Comment ça se fait que tu es resté? Ouais, mais la solitude, et puis c'est pas évident. Puis quand même, il a quand même des qualités. Puis bon, c'est vrai qu'il a des défauts, mais bon, mais quand même. 4 ans. Non, mais c'est pas une hésitation, ça c'est limite fossile. T'as fait un arrêt sur image, là. Comment ça se fait? Ah, t'as peur, c'est pas évident, c'est difficile. Bon, quel âge t'as? Pourquoi de quoi? Et si je me trouve pas et j'ai peur d'être célibataire? T'as 16 ans et demi, là. La vie, elle est devant toi. Qu'est-ce qui va t'arriver? Non, on sait jamais, je préfère le tenir plutôt que courir. Mais il va te faire courir, celui-là. C'est quoi cette logique? Cette logique, c'est que toi, t'as pas compris que la personne qui est en face de toi, tant qu'elle n'est pas elle-même, c'est quoi être soi-même? Être soi-même, c'est quoi soi-même? C'est le même que soi. Tant qu'elle n'est pas elle-même, tu sais pas qu'est-ce que t'as en face de toi. Alors, combien de fois? Ah, ben, j'étais tout. Regarde, on est à 4 mois du mariage. Il m'insulte, il n'est pas sérieux, il drague ma copine, il me rappelle pas, il m'a jamais fait un cadeau, il insulte mes parents, il m'a maudit 2 fois, il m'a quitté 4 fois, mais je l'aime. Combien de fois je l'ai entendu celle-là? Moi, j'ai pas fait d'études de psychologie. Qu'avec mes connaissances de zoologie, déjà, j'ai beaucoup avancé. J'ai toujours la même question. Écoutez, cette question, elle va vous aider à grandir. Je dis, madame, mademoiselle, ou monsieur, c'est pareil, la personne que vous aimez, c'est la personne que vous avez en face de vous ou la personne que vous auriez voulu qu'il soit? T'es amoureuse d'un espoir, d'une illusion, d'un souvenir, d'un fantasme. C'est quoi ton amour pour toi? C'est une espèce de masturbation émotionnelle, genre tu te fais plaisir à croire qu'il t'aime parce que t'as trop peur d'assumer le fait qu'il t'aime pas. Mais c'est quoi? Si ton mari, t'as 5 enfants, je veux bien, je dis bon, on va essayer de s'arranger. Mais il n'y a rien qui t'engage. T'as créé quoi avec lui? Une espèce de malaise. Donc en fin de compte, le jour où le rideau va tomber, c'est juste la vérité qui va se révéler. Tu dis, ouais, mais c'est dur, j'ai peur. Et s'il me dit non? Mais s'il dit non, c'est une bracha. Mais c'est une bracha. Parce que s'il dit oui et que c'est faux. J'ai eu ça. On était au mariage, le ratan n'est pas venu. Il n'est pas venu. J'étais balèze quand même. J'étais en robe de mariée. Le traiteur est prêt, la salle est prête, les mariés sont là. Les invités sont là, le mec il est pas venu. Le salaire là, oh, j'ai un problème, il répond pas sur son portable, je sais pas quoi faire. Et le contraire aussi, moi j'ai eu beaucoup trop de potes. C'est comme ça, t'es dans le bureau avec la cala, alors on y va? J'ai pas compris. On va là, la cuve est prête, on rentre. Non, c'est pas lui. Attendez là, c'est aujourd'hui le mariage. Le ratan il est là. Non mais c'est pas lui. J'ai vu comment il a regardé sa mère juste avant la roupa. C'est pas lui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu la pousses? Donc tu lui dis, écoutez madame, c'est pas grave, on va réfléchir. Non mais il a pris une avance là, 12 000 euros le traiteur. La salle c'est fini, là, tu peux plus la récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens ils arrivent à des indécisions? Mais c'est très simple. Parce qu'ils ont rêvé pendant 6 mois. Aujourd'hui c'est pire, ils rêvent pendant 4 ans. Le jour où ils se réveillent, des fois c'est la roupa, des fois c'est le lendemain. Une femme, elle m'a téléphoné un mois de mariage. Elle m'a dit, Raph, c'est pas lui. J'étais 3 ans avec un mec. Mon groupe, on s'est déchiré, il est parti. Lui, ça faisait 2 ans qu'il me courait après. On superpose des calques. Quand lui, il m'a basé au bout de 3 ans, l'autre, il est arrivé, j'ai craqué, je dis, bon, allez, j'en peux plus, je le prends. On s'est marié à Nathania au mois d'août. Au mois de septembre, je peux plus le voir. Je peux pas le voir. On n'a aucun rapport. Je dis, mais enfin, elle l'a mis. Vous n'avez pas été drogué sous la roupa. On n'a jamais vu une calar zombie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai cru. Ou alors, ils te disent, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Celle-là, elle a épousé Fantomas. Mais ça vient de quoi? Ça vient de ce monde d'illusion. Encore une fois, je te fais croire. Je te fais dire. Je crois que je pense. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Or, la définition de la maturité d'après la Torah, c'est que la personne intérieure. Ils vont pas donner de feutre. La personne intérieure. Même pas en blanc, je ne peux même pas vous le faire en négatif. Donc, la personne. Oh ben voilà.
Vous voulez
gagner un chiffre? Non, ça va aller. Et voilà, ça va aller. Vous voulez gagner un chiffre? La personne intérieure et la personne extérieure, c'est les mêmes. La Torah, elle appelle ça Toro Kebaru, ton intériorité et ton extériorité, pareil. Ils appellent ça Pi Velibo Shavin. La bouche et le cœur, pareil. Ils sont équivalents. C'est ça être un homme, c'est être une femme. Maintenant, si toi, tu épouses quelqu'un, que celui-là et celui-là, c'est pas le même. T'as épousé le cœur. Alors, des fois, c'est celui-là qui revient devant. Oh, il fait la gueule. Après, il fait un effort, bonne volonté. Dis-moi quand il est gentil, c'est lui ou il fait semblant? Vachement compliqué. Parce qu'ils sont pas identiques. Ils sont pas les mêmes. Alors ça, en français, encore une fois, c'est la chose la plus naturelle du monde. Ça s'appelle être soi-même. Être soi-même. Soi-même. Le même que soi. Et c'est normal. C'est pas seulement l'engagement par rapport aux autres, c'est même par rapport à toi-même. C'est logique d'être soi-même. Oui ou non? Oui, non? Oui? Ouais, vous savez, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que, regardez, il y a le jeu intérieur et il y a le jeu extérieur. On va dire que ça, c'est le corps. Vous voyez à peu près le corps, là, vous le voyez ou non? Donc ici, il y a le jeu intérieur avec la volonté. Ici, il y a le jeu extérieur avec l'acte. Ça, c'est la définition de la liberté. Regardez. Je fais ce que je veux. Ça va? Je fais ce que je veux. C'est la maturité totale. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait que quand tu te fais attraper, tu dis regarde comment c'est fort. C'était plus fort que moi. Je crois pas. J'ai eu un message là. T'as dit à ma copine que tu l'aimais? Non, mais je rigole. Comment tu rigoles? Mais elle t'a cru, parce qu'elle m'a appelé pour me dire, hey, tu sais que ton pote, il m'appelle, il me dit qu'il m'aime. Alors tu dis, non, mais tu sais, bon, ça m'a pris comme ça, c'était un coup de folie, excuse-moi, ça m'a dépassé. Regarde comment tu parles. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que toi. Regarde. C'est personnel ou impersonnel? C'est apostrophe.
Impersonnel.
Impersonnel. Dis-moi, comment c'est possible que toi qui me dis toujours je fais ce que je veux, maintenant tu me dis c'était plus fort que moi? Genre, il y a un truc en moi qui est plus fort que moi, qui est impersonnel. Des zombies à l'intérieur, il y a un esprit qui m'a hanté, qui est venu chez moi. Mais je comprends pas, c'est toi ou c'est pas toi? Un enfant, il a 8 ans, tu l'attrapes, ouais. Tu l'attrapes, il a volé, tu l'attrapes. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vu ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'enfant de 8 ans quand vous l'attrapez?
C'est pas moi, c'est
ma tête. Toi, tu connais le cours par cœur, mais eux. J'ai besoin de savoir le niveau de réactivité, s'il est proche du coma ou non. Alors, c'est pas moi. Pourquoi l'enfant dit c'est pas moi? Mais on a les photos, on l'a vu. Il a les traces de confiture sur la tête. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Pourquoi il dit que c'est pas lui?
Il faut nier.
Hein?
Il faut nier.
Quoi?
Il faut nier.
Il faut nier. Ah, il faut nier. Il faut nier. Il a peur de quoi? Il a peur que de se faire attraper ou il a peur de se rendre compte qu'il se fout de sa gueule? Alors, quand il est petit, il a peur de se faire attraper, et quand il est grand, il a peur de se rendre compte qu'il se moque de lui. Il a peur de se rendre compte qu'il est bipolaire. Il a peur de se rendre compte qu'il est un peu fou. Parce qu'il a des personnes. Ça s'appelle la bipolarité, tu vois. Le mec, il est marié, il a une femme, elle est mignonne, elle est belle, elle est bronzée, elle lui plaît. Mais tous les soirs, jusqu'à 4h du matin, il est sur des sites porno. Tu dis, mon mari, c'est lequel des deux? J'ai les deux. Et c'est lequel des deux, mon mari? Bon, ton mari, c'est un problème, c'est pas évident. Mais toi, lui, toi-même, le mec, toi, tu peux pas. Tu dis, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Et c'est bizarre. Ça s'appelle le caméléon en psychologie. Un mec, il est avec ses clients, il a une tête. Il est à la maison, il a une autre tête. Avec les gens de la communauté, il est hyper généreux. Avec ses enfants, il fait le rah. Ouais. Avec sa femme, il est dur. Avec sa maîtresse, il est cool. Avec sa mère, il est à quatre pattes. Avec son patron, il le prend de haut. Mais t'as combien de visages ? Ça s'appelle en psychiatrie, ça s'appelle le phénomène du caméléon. C'est des gens qui prennent des visages selon l'entourage qui les entoure. Et souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont... D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Razak. Il y en a un qui a réagi. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars, là ? Au Canada, ils ont l'esprit congelé. Mais vous, je comprends pas, il fait pas froid. Bon. Alors, ici, c'est marqué... Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est marqué qu'une personne, elle a plusieurs facettes tant qu'elle n'a pas décidé qui elle est. Maintenant, le problème, il est... vous pouvez marquer cette feuille, cette ligne, au moins ça, je sais que vous l'aurez retenu. Écoutez cette phrase. Marquez-la. On a un stylo. Vous l'avez, là ? C'est bon ? Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Réfléchissez à ça, ça peut changer votre vie entièrement. Le degré de pénétration des agressions extérieures. Pourquoi ça me fait de la peine quand tu me fais une remarque ? Pourquoi ça me touche quand le prof il me gêne ? Pourquoi c'est difficile pour moi quand il pleut ? Pourquoi ça me stresse d'aller voir un nouveau patron ? Pourquoi ça rentre chez toi ? Lui, il est comme il est. Il est gentil, il est méchant, il est dur, il est lourd, il est gros, il est maigre, il est intello, il est religieux. Ça, c'est lui. Mais pourquoi ça rentre chez toi ? Pourquoi ça te déstabilise ? Pourquoi ça t'angoisse ? Pourquoi ça te fait peur ? Pourquoi ça t'embrouille ? Alors, je te dis, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si toi, tu es construit, si toi, tu es plein, ça rentre pas chez toi. Si toi, tu es vide, ça rentre chez toi. Donc, ta responsabilité, c'est pas de fuir les gens qui t'agressent. C'est de te construire qu'au moment où il t'agresse, ça rentre pas chez toi. Si t'es plein, si t'es construit, si t'es entier, ça rentre pas chez toi. Si t'es vide, ça rentre chez toi. Vous voulez la preuve ? Essayez d'éponger une flaque d'eau avec un lingot de titane. Est-ce que ça marche ?
Quoi,
depuis tout à l'heure, vous n'entendez pas ? Un lingot de titane. David, quand tu parles en même temps, ils n'entendent pas. Alors, où tu te mets là, tu parles. Moi, j'écoute, franchement, ça me ferait du bien d'écouter de temps en temps. Donc, je répète, est-ce qu'on peut... Tu t'appelles pas David ? Tu vois, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé David. Donc, je répète. Est-ce qu'on peut... Si tu as d'ambition dans la conférence, tu pourras faire quelque chose. Non, j'avais besoin de savoir, j'en sais rien. Demande au bon Dieu, je ne comprends pas. Ce que je comprends, moi. Regardez, ce qui est marqué ici, c'est extraordinaire. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça veut dire que toi, ton devoir, c'est de te construire. Toi, ton devoir, c'est d'être forte, d'être fort. Toi, ton devoir, c'est d'être sûr de toi. Toi, ton devoir, c'est d'avoir confiance en toi. Maintenant, quand toi, tu t'es construit, il n'y a rien qui va rentrer. Parce que tu es un lingot de titane. Mais si tu es une éponge, il y a de l'air dedans, il y a du vide dedans. Tu sais que la densité moléculaire de l'éponge est beaucoup moins grande que la densité moléculaire du titane. Donc automatiquement, l'eau, elle va rentrer dans le titane. Mais la boue aussi, l'eau, elle va rentrer dans l'éponge. Mais la boue aussi, elle rentre dans l'éponge. La pipi aussi, elle rentre dans l'éponge. Tu ne sais pas ce que tu vas absorber comme éponge. Tu dis, ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas évident. Et puis j'ai eu une enfance difficile. Et puis mes parents ne m'ont pas aidé. Et puis les gens ne me considèrent pas. Et puis j'aime pas mon corps. Et puis mon cerveau, ce n'est pas ce que je voulais. Et puis je n'ai pas eu la chance que tu as eue. Et puis je ne suis pas intelligent comme toi. Pourquoi tu travailles pour devenir une éponge ? Travaille pour devenir du titane. Regardez, je vous donne une loi physique, anatomique, chimique et psychologique en même temps. C'est dans les arts martiaux. Vous êtes en train de vous battre avec un mec, d'accord ? S'il s'attend à recevoir un coup et vous le tapez dans le tibia, ouais, le tibia ne se casse pas. Maintenant, s'il ne s'y attend pas et vous le tapez dans le tibia il se casse. Demande à un médecin qu'est-ce qu'il en pense. Mais suivez, non ?
C'est vrai, ça va pas.
Quand je mange, je lève la main, t'en fais pas, d'accord ? C'est que je vous dis que des choses vraies. C'est vérifié. Un type qui s'y attend, le tibia ne se casse pas. Par exemple, quand tu apprends à tomber au judo.
Il se prépare, le tibia.
Le tibia, c'est un os. Comment il se prépare l'os ?
Le cerveau, d'après l'ordre du cerveau.
Ça veut dire que l'ordre du cerveau, il arrive à compresser la densité moléculaire. Les muscles, l'os, le tibia. Pourquoi j'ai pris l'os, le tibia là-bas? Parce que devant le tibia, il n'y a rien. Il
n'y
a rien devant le tibia. Donc c'est pas le muscle. Alors comment? L'os qui se contracte.
Il y a des nerfs.
Laisse tomber les nerfs, il n'y a rien du tout. Touche ton tibia.
Si monsieur, vous voulez faire une expérience, touchez votre tibia.
Oui.
Attendez, levez votre pouce. Faites vers le haut et vous allez voir que le tibia il est proche.
Je vois pas ce que tu veux. Bon, je vous laisse l'occasion de faire l'expérience. C'est un truc qui est déjà prouvé scientifiquement. Je vais pas refaire la Sorbonne. Non, mais si on en est là pour le tibia, comment on va faire pour la Torah? Ça va être compliqué, les gars. L'histoire n'a même pas commencé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chut, détendez-vous. Ouais. Ça peut être tout. Cette phrase-là, c'est ce qu'on appelle les yesod klali. C'est un secret général. Il y a de la psychologie, de la philosophie, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a tout dedans. Parce qu'on regarde, en physique, on dit il n'y a pas de vie dans le monde. Chut. Et c'est tombé le tibia, disons que je ne l'ai pas dit, c'est pas grave. Donc regardez. On dit Enrikut Baolam. Ouais. Il n'y a pas de vie dans le monde, c'est une loi physique. Vous avez une bouteille d'eau, vous la videz, il y a de l'air dedans. Vous mettez de l'eau, il n'y a plus d'air. En physique, on dit il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. D'accord? Donc maintenant, c'est exactement pareil, toi. Maintenant, toi, à l'intérieur, où tu as mis quelqu'un ou tu as mis personne? S'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Tu m'entends, écoutez, il ne peut pas y avoir personne en moi. Mais pourquoi le mot personne, il veut dire personne ou personne? Ça ne vous dérange pas? Ah, même en français. Le respect de la personne. Tu sais, il faut respecter la personne, il faut respecter la personne. Par exemple, un phénomène bizarre. Quand vous vous mettez devant un... Mais en hébreu, c'est pareil. Donc, ne croyez pas que c'est juste le français. En hébreu, comment on dit moi? Ani. Comment on dit la négation totale? N. N. Aleph, Yud, Nun. N. Aleph, Nun, Yud. Ani. Ani et N, c'est les mêmes lettres. Ou t'es Ani ou t'es N? Ou tu existes ou tu n'existes pas? Maintenant, si tu n'existes pas, tu dis, mais ça fait rien, je fais semblant d'exister. Si tu fais semblant d'exister, ça s'appelle une image. Une image, c'est une carapace. Maintenant, si vous prenez un thermos, vous savez que le thermos, il a un extérieur en inox et un intérieur en...
Mercure.
Ah non.
Non, je ne dis pas.
Pas un thermomètre, Baba, un thermos.
Ah, je prends un thermomètre.
C'est pas grave. Donc, je répète, le thermos, il a un extérieur... Chut. Restez concentrés en un seul mot. Donc, le thermos, il a un extérieur en inox et un intérieur en verre. Tu dis, mais c'est solide, c'est de l'inox. Tu tapes dedans... C'est resté, mais à l'intérieur, c'est cassé. Une fois, j'ai appris une grande leçon d'un très grand professeur de philosophie qui était maçon. C'était un arabe, il est venu pour casser un mur chez moi. Et je l'ai regardé faire. Non, parce que le Zohar, il dit que tous les phénomènes psychologiques et spirituels, ils sont représentés par des phénomènes physiques et naturels. Il y avait un mur, il fallait casser un mur. Vous avez déjà essayé de casser un mur, c'est pas évident. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que personne cartésienne? On fait un trou, on fait un trou, on fait un trou, on fait un trou, puis après on agrandit le trou.
Comme dans Prison Break, monsieur, il fait plein de trous.
Attends, tout ce qui te passe par la tête, tu vas me le dire. Alors, j'ai vu comment il a fait le mec. Chut. Ayez pitié de moi, après vous pourrez délirer toute la semaine, mais là je viens pas souvent, moi. Gardez votre concentration. Il y a un mur comme ça, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait le mec. Il a tapé là, mais il n'y a rien cassé. Après il a tapé là, 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 et le mur entier est tombé. Ça m'a pris une grande, grande leçon. Tu vois, des gens comme ça, tu comprends pas. Un jour il s'écroule, tu sais qu'il est en dépression, il a fait une hospitalisation à Sainte-Anne 6 jours, il crie, il voit des serpents au plafond. Pourtant le mec c'était un type normal. Bon, c'est vrai qu'il était un petit peu speed, bon, c'est vrai qu'il prenait un petit peu des trucs pour. Il avait un emploi de temps difficile, il avait des pressions financières très graves, mais là, il a vraiment pété un câble. Tu sais pourquoi? Parce que la vie, elle lui a un petit peu tapé ici, elle lui a un petit peu tapé ici, elle lui a un petit peu tapé ici. Mais les fissures à l'intérieur de lui, tu ne les voyais pas. Puis un jour, il a tapé un bon coup dans ce qu'on appelle le centre de gravité, c'est là où c'est grave, et il s'est écroulé. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de percevoir les fissures de la vie, tu vas t'écrouler. C'est qu'un homme, il a deux grandes crises dans sa vie, 14-18 et 39-45. Regardez le temps que vous mettez pour réagir. Regardez, c'est pas possible. Même ma trotteuse, elle a sauté. Elle a explosé. Bon, alors. Non, c'est intéressant. Ça veut dire que l'homme au niveau universel, c'est le même que l'homme au niveau individuel. Faut réfléchir. Allez, explique-lui, vas-y. Amène-lui des photos de la guerre. Allez, allez. Non, mais je suis choqué parce que si cette blague, vous mettez exactement 6 secondes à la comprendre, alors il y a des phrases, vous n'avez même pas dû comprendre de quoi je parle. Toi, t'es habitué, mais tu penses qu'ils comprennent. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Ici, c'est marqué que moi. Et c'est bon. C'est bon là. Concentré. En un mot. D'accord. Et ensuite. Concerné. Toujours en un mot. Allez, c'est marqué ici. Moi, mon être intérieur, il est là. Il doit être construit. S'il est construit, il n'y a rien qui rentre. S'il n'est pas construit, ça rentre. C'est comme un tuyau. Imaginez un tuyau comme ça. Un tuyau de plomberie. Là, il y a 6 kilobars de pression. Et là, il y a 4 kilobars de pression. L'eau, elle va par là ou elle va par là?
À droite.
C'est sûr. Ça, c'est le monde intérieur. Ça, c'est le monde extérieur. Ça, c'est la pression extérieure. Ça, c'est ton patron. Ça, c'est toi. Ça, c'est tes parents. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta femme. Ça, c'est toi. Dis-moi, quelle est la pression la plus forte? Elle est là ou elle est
là?
Si toi, t'existes, l'autre, il ne peut pas exister à ta place. Mais si toi, t'existes pas, l'autre, il va exister à ta place. Après, tu dis, ouais, pour qui il se prend? Ouais, il décide pour moi. Mais personne au monde ne peut décider pour toi, sauf si tu lui donnes la possibilité de le faire. Ça veut dire que la vie, c'est ce qu'on appelle la confrontation de deux flux existentiels. Ou t'existes plus, ou t'existes moins. Or, on a dit que la pénétration dépend du vide. Donc, si toi, tu es absent, lui, il est présent. Maintenant, ne lui reproche pas de prendre ta place puisque c'est toi qui lui as donné.
Il n'y a pas d'équilibre.
Hein?
Il n'y a pas d'équilibre.
Je suis sûr que ça existe. Ouais. C'est que toi, tu existes et l'autre existe. Mais si toi, tu crois que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister, tu as des solutions. Soit tu vas refuser d'exister, soit tu vas vouloir l'empêcher d'exister.
Je répète,
oui, tu as raison, ça s'appelle normal. Ça s'appelle normal, mais ça, c'est pas évident à construire. Être soi-même, encore une fois, être soi-même, celui-là et celui-là le même, c'est pas évident. Maintenant, quand tu es le même, c'est que ton acte et ta parole, ton acte et ta pensée sont les mêmes, alors c'est ça l'équilibre. Mais ça, c'est des années, ça. Il faut travailler pour ça. Sinon, tu vas tomber dans la majorité. La majorité, c'est quoi? Eh bien, ils subissent les influences. Adam, olé, achas, vivotav. Alors, pourquoi il y a ces deux dimensions dans l'homme? Parce qu'on a déliré complètement là, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver le fil? On vous rappelait qu'on parlait des lois compréhensibles, Voilà. Maintenant, en vérité, à l'intérieur de l'homme, il y a aussi deux dimensions. Une dimension qui s'appelle qu'il conçoit les choses, une dimension qui ne les conçoit pas. Par exemple, le présent, tu le connais, le futur, tu le connais. On connaît le futur ou non? Vous êtes sûr? Alors, c'est bizarre, parce que les Chachamim, qui ne sont pas complètement idiots, ils ont dit, Ezeu Chacham Aruel Tanolan, qui c'est le sage, celui qui connaît l'avenir. Tu dis, mais on ne connaît pas l'avenir. Alors je vous donne un truc. Vous n'êtes pas fatigué là? Comment je comprends mon présent? En analysant mon passé. Puisque je sais que mon présent, c'est la suite de mon passé. Ça va? Par exemple, j'arrive au BTS, je fais sur moi la diarrhée. Pourquoi? Bah parce que je sais que toute l'année, je me suis conduit comme une. J'ai rien foutu. Comme j'ai rien foutu, ouais, et ben j'arrive au BTS. Mais si j'ai travaillé, je suis plein, j'ai mes annales, mes cours, mes profs, mes révisions, mes trucs, j'ai tout, même mes antisèches, j'ai tout. D'accord? Donc je suis prêt, on y va les gars, quand vous voulez, quand tu veux. Mais si j'ai rien foutu, purée, j'ai changé mes tout ça, j'ai prié les trucs, j'ai envoyé une lettre au Dalai Lama, j'ai mis un bout de papier dans le nez de ma soeur qui se prend toujours pour le cotel, alors je lui ai mis un peu. Alors pourquoi? Parce que t'as rien foutu, Ahmar, t'es un glandeur. Qu'est-ce que tu veux chez toi? Cette logique, c'est quoi? C'est que je peux comprendre mon présent en regardant mon passé, puisque mon présent, c'est la suite de mon passé. Ça va? Ça va. Maintenant, si je veux connaître mon futur, c'est très simple. Il suffit de mettre mon présent au passé.
Le futur,
quoi? Bon. Regardez. Non, c'est pas grave. Mon futur, ouais. Aujourd'hui, mon présent, demain, il sera mon futur. D'accord ? Maintenant, à l'époque de mon futur, ce présent-là, il sera le passé. Maintenant, puisque aujourd'hui, mon présent, je le comprends en regardant mon passé, puisque mon présent, c'est la suite de mon passé, donc il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. Puisque ce futur, un jour, il sera le présent. Ouais ? Et ce présent-là, je le comprendrai en regardant mon passé. Mais le passé qui sera, c'est mon présent d'aujourd'hui. Et de la même manière qu'en regardant mon passé, j'ai compris mon présent, il suffit qu'aujourd'hui, je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. C'est QFSD, ce que fait Dieu. D'accord ? C'est évident. Vous avez compris ou non ? En français, ça s'appelle la projection. La capacité de se projeter. Maintenant, pourquoi j'arrive à me projeter sur mon passé et j'arrive pas à me projeter sur mon présent ? Ça veut ou non ? C'est intelligent ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que j'arrive à me projeter sur mon passé et j'arrive pas à me projeter sur mon présent ? Hein ?
On l'a vécu.
On l'a vécu, voilà. Parce que avec le passé, il y a un recul naturel. Maintenant, est-ce que je peux fabriquer un recul artificiel avec mon présent ? Maintenant, bien sûr que oui. Regardez la preuve. Maintenant, vous avez une copine qui a exactement le même problème. Quand vous arrivez à lui donner des conseils. Mais quand vous avez ce problème-là, vous n'arrivez pas à vous conseiller à vous-même. C'est bizarre, non ? Parce que par rapport à l'autre, vous êtes en décalage, vous êtes en projection. Maintenant, chez vous, le problème, il est intellectuel et émotionnel. Mais quand vous le regardez chez l'autre, il peut être intellectuel, il peut pas être émotionnel pour vous. Donc, c'est plus facile de gérer l'intellect que de gérer l'émotionnel. Ça va ? Eh bien, c'est très simple. Si tu te projettes au-delà de toi et que tu te regardes toi comme quelqu'un d'autre, donc maintenant, tu as du recul par rapport à toi. Donc, tu peux te gérer à toi. Ça s'appelle en français là.
C'est presque impossible de se...
Mais c'est ça le moussa. Mais c'est ça le moussa. C'est quoi le moussa ? C'est quoi l'introspection ? C'est quoi l'auto-analyse ? C'est que je me mets au-dessus de ma tête et je me regarde. Je sais quand je me moque de moi, quand je suis moi-même, quand je suis honnête, quand je suis malhonnête, quand je me fous du monde. Je sais. Regardez par exemple. Quand vous mentez, vous le sentez ou non ?
Oui.
Non, peut-être quelqu'un pourrait dire non, tu sais, moi je suis tellement sincère que même moi je me la joue. Mais t'es un peu malade, il faut bien que tu saches quand tu te mens. Alors quand tu sais que tu te mens, c'est parce que tu le sais que tu te mens, c'est-à-dire tu te vois mentir, tu t'entends mentir. Donc tu vois bien que tu es en décalage par rapport à toi. Maintenant toi le problème, c'est que pour t'obliger à savoir que tu te mens, on est obligé de t'attraper, on est obligé de t'insulter, on est obligé de te mettre la pression. C'est-à-dire qu'on est obligé de te mettre la pression pour que tu deviennes toi-même. Mais si toi t'attends pas qu'on te prenne la tête, t'attends pas que ton père il tire l'oreille, que le prof il t'insulte, qu'on te demande un mot de retard, toi-même tu te regardes toi-même face à toi-même. Parce que l'adulte, en fin de compte, c'est quoi ? C'est la conscience de l'enfant. Maintenant, pour ne plus avoir besoin d'un adulte, il suffit de devenir un adulte. Mais tant que toi, tu as besoin qu'on t'engueule, c'est parce qu'au fond, tu es un pauvre type. Mais si tu dis, écoute, c'est pas la peine, j'ai compris. Comment je fais ? Je fais moi le surveillant général de moi-même. Je fais moi le directeur. Je fais moi l'organisateur. Je fais moi le réveil. Moi. Ça s'appelle vivre de manière pronominale. Regardez. Tu te réveilles le matin, d'accord ? Qu'est-ce que tu dis ? Je me lève. Je c'est qui ? C'est toi. Et me c'est qui ? C'est toi. Qui c'est qui lève qui ?
C'est Dieu.
Il a la force. Je répète. La religion n'est pas un interdit de réfléchir. C'est un encouragement à la réflexion. Donc je répète. Je me lève. Je c'est moi. Me c'est moi. Qui c'est qui lève qui ? Alors, je t'explique. En toi, il y en a un qui a envie de se lever. C'est le je. Il y en a un qui n'a pas envie de se lever, c'est le me. Le lourd, il ne veut pas se lever. Alors le jeu, il aime le me. Regarde, je me prends en main. Je me prends en main. Traduction. Je, c'est celui qui veut se prendre en main. Il veut s'en sortir. Me, c'est celui qui n'a pas envie de s'en sortir. Donc le me, c'est celui qui fait l'enfant. Le jeu, c'est celui qui fait l'adulte. Donc l'adulte qui est en toi, il prend en main l'enfant qui est en toi. Par exemple, toi, tu dis, ouais, mais moi, tu sais, moi, si on m'encourage, si on pousse, si on. Combien de fois des garçons me disaient, moi, j'ai besoin d'une fille qui m'aide, qui me montre que je suis grand, qui m'encourage, qui me pousse. Je sais pourquoi t'es un boulet, toi. Il faut atteindre ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi autonomie ? Automobile, ça veut dire quoi ? Automobile. Automobile. Et autonome. Auto-homme. Il faut être auto-homme. Il ne faut pas être homme grâce à l'autre. Il faut être auto-homme. L'autonomie, ça vient de la projection. La projection, c'est que tu te regardes vivre. Comme tu te regardes vivre, tu te connais. Comme tu te connais, tu sais qui tu es. Comme tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Ezeu Racham Avo et Adola, ça veut dire que dans les graines du présent, tu peux connaître les plantes du futur. Seulement, il ne faut pas attendre qu'elles grandissent. Il faut être capable de reconnaître les graines. Quand tu connais les graines, regarde, les graines de ta glande, ouais, ils sont les plantes de ton échec. Donc, tu vois, ça n'a aucun rapport. On peut très bien passer un an au café en face de l'école et avoir son BTS. Dibli Neder. Genre, l'inspiration, je vais tomber exactement sur le sujet que je veux, je vais aller chez l'examinateur avec quoi le décolleté, il va plus comprendre ce qui lui arrive. Tu lui demandes, tu dis, ça vous dit la visite des grands fagnons? C'est pas une façon de passer son BTS, ça. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est le BTP, ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle arrive à comprendre. C'est quoi l'heure qu'on a dit? C'est la dernière, non?
La dernière.
Et ben, si, d'accord. Vous êtes pressé? Oui, non, oui, non. Non, faut me dire parce que je programme en fonction du temps. Quelle heure? Levez la main ceux qui sont pour 6 heures. Ceux qui sont pour 4 heures. Vous voulez que je fasse la même chose en 5 minutes?
Si vous êtes capable.
Moi, je suis capable.
C'est vrai?
Ouais. Mais c'est pas ça la question. C'est ce que vous avez le logiciel pour décompresser. Donc, la logique, elle est que... La logique, elle est... On a dit qu'une personne, elle a une dimension intérieure, une dimension extérieure. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'homme, il y a des chukim et des mishpatim. Il y a des choses qui sont perceptibles, des choses qui sont imperceptibles. Exactement comme dans la Torah. Maintenant, on a dit qu'un homme, il doit étudier ce qu'il désire étudier. On a dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de percevoir l'intériorité des paroles du Rav, elle dépend de la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit, il y a ce que je dis et ce que je veux dire. Maintenant, pour que l'élève, il comprenne ce que je veux dire, il faut que l'élève, il veuille entendre. Donc, quand toi, tu veux entendre et que moi, je veux parler, ouais, il y a une connexion entre les deux volontés qui fait... C'est pas grave. Non, celui qui a une obligation, c'est pas... Ne vous gênez pas, on est des adultes, on peut comprendre.
Au revoir,
à bientôt. Donc... La connexion dans la communication, c'est quoi? C'est entre celui qui veut entendre et celui qui veut parler. Donc en vérité, c'est pas parce que tu parles et c'est pas parce que tu entends, c'est parce que tu veux et tu veux. Alors je vous donne la règle. Ils ont découvert ça en Californie dans un centre de recherche expérimentale sur la communication. Ils ont dit que 93% des gens qui n'écoutent pas n'entendent pas ce qu'on leur dit. D'ailleurs, j'en ai deux au fond qui ont exactement approuvé ce principe. Donc ça veut dire quoi? 93% de la communication ne dépend pas du message émis, mais de la volonté d'exprimer et d'écouter. Écoutez bien, c'est que quand tu parles à quelqu'un, le fait qu'il te comprenne, c'est pas parce qu'il t'a entendu des mots, c'est pas parce que tu as du charisme, c'est pas parce que tu as suivi une démonstration, c'est pas parce que tu fais des gestes, c'est parce qu'il a envie d'écouter et toi, tu as envie de parler. Enfin, tu as envie, tu veux. Toi, tu veux parler et lui, il veut écouter. Maintenant, manque de peau pour la recherche expérimentale. En Californie, c'était déjà écrit dans la Torah, de manière très claire. C'est marqué « Dvarim ayotim minalev nirtasim lelev ». Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Maintenant, le cœur, ce n'est pas le cœur des sentiments. Le cœur, c'est l'essence de la personne. Maintenant, l'essence de la personne, elle produit la volonté. Maintenant, si toi, tu arrives à créer ce qu'on appelle une communion de volonté, c'est-à-dire que ta volonté à toi, elle communique avec la volonté de l'autre, il y a un pont de volonté qui va véhiculer les informations. Ça va? Celui qui veut comprendre, il va même comprendre ce que tu n'as pas dit. Celui qui ne va pas comprendre, ce qui ne veut pas comprendre, il ne comprend même pas ce que tu dis. Parce que puisqu'on a dit que comprendre, c'est comme comprendre, et donc c'est saisir, et que la saisie, elle se fait avec quoi? Avec la volonté. Donc maintenant, si vraiment quelqu'un, sincèrement, il veut comprendre, peut-être qu'il peut même comprendre plus que ce que le rabbi l'a dit. Tu vois, c'est pas possible, il ne l'a pas dit. Si vous avez accès, vous, au site internet de la Bibliothèque Nationale, au-delà du sujet que vous avez cherché, vous pouvez rentrer dans tout le site. Ça va? Eh bien, le site de celui qui enseigne, c'est la volonté. Le code d'accès, c'est la volonté. Donc, quand toi, tu veux comprendre, c'est ce qu'il a dit. Ikar pnimiyut divrei harav. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav sont accessibles à celui qui désire intensément les entendre. Donc, maintenant, on a deux problèmes. Il faut que le Rav, il veuille transmettre et il faut que l'élève, il veut écouter. Maintenant, le Rav, il doit être intéressant et intéressé. Parce que s'il est intéressé à ce qu'il dit, ça a de l'intérêt, donc les gens qui l'écoutent, ils sont intéressés. Maintenant, si l'autre n'est pas intéressé, même si lui, il est intéressant, ça ne sert à rien parce qu'il ne comprendra pas. Ça va? Pour ça, ça qu'il y a une forme d'honnêteté intellectuelle dans le dialogue qui fait que quand l'autre parle, on écoute. Même quand l'autre se tait, on écoute, puisque le discours, il continue après que l'autre se tait. C'est pour ça que les gens qui s'aiment, au départ, ils ont besoin de beaucoup apprendre à parler, et après, ils se comprennent. Ils se comprennent sans parler. Parce qu'encore une fois, le pont de la communication, c'est un pont de communion de volonté. Or, la communion de volonté, en hébreu, s'appelle Shavu Taretzonot, l'équivalence des volontés. Et Shavu Taretzonot, il dit le Maharal, c'est Ahava, c'est ça l'amour. C'est quoi l'amour, les gens ? L'amour, j'attends l'amour. Ils cherchent l'amour, ils prétendent à l'amour, ils ont l'ambition de l'amour. Alors, ils regardent des DVD, ils vont voir des films américains, ils attendent que ça vienne. Ils disent peut-être qu'il va sortir du RER sur son cheval blanc. C'est compliqué de prendre le RER avec un cheval. La logique, c'est très simple. L'amour, c'est Shavu Taretzonot, c'est l'équivalence des volontés. Or, la volonté, elle est produite par la Neshama. Maintenant, cette volonté, elle me sert à quoi, à moi ? Elle me sert à projeter ma volonté à l'extérieur. Elle me sert à projeter ma personne à l'extérieur. Maintenant, comment on appelle l'expression de la personne à l'extérieur ? L'expression de la personne à l'extérieur. Ça s'appelle la personnalité. La personnalité, c'est l'empreinte de la personne dans la réalité. Maintenant, comment est-ce que ta personne à toi, qui est personnelle, elle arrive à l'extérieur ? Parce qu'elle dit la vérité. Si elle ne dit pas la vérité, si elle n'est pas elle-même, elle ne peut jamais exprimer sa personne. On dit en français, personne, elle ment. Parce qu'elle ne dit pas la vérité. D'accord ? Mais si la personne, elle est elle-même, donc c'est sa personnalité, c'est sa personne qui est ici. Maintenant, comment est-ce qu'elle a pu projeter sa personne dans la réalité grâce à sa volonté ? Mais suivi ou non ? Maintenant, en face, l'autre aussi, elle exprime sa personne par sa volonté. Alors, comment on appelle passer du potentiel au réel par le biais de la volonté ? On appelle ça en français exister. Exister, c'est ex, extérieur, ister, être, être à l'extérieur. Dans la Torah, on appelle ça la vie. Parce que la définition de la vie, c'est passer du potentiel au réel, dit le Maharal. Le potentiel, c'est le jeu intérieur, le réel, c'est le jeu extérieur. Quand tu arrives à passer du jeu intérieur au jeu extérieur, on dit en français que tu existes. Maintenant, comment ça s'est fait ? Par le biais de la volonté, vous vous rappelez ou non ? Maintenant, la volonté, elle permet à quoi ? D'exister. Oui ou non ? Maintenant, quand moi, j'existe pour toi, et toi, tu existes pour moi, c'est ça l'amour. On a dit, c'est quoi le pont de l'existence ? C'est la volonté commune. Donc moi, je veux exister pour toi, toi, tu veux exister pour moi. La rencontre des deux volontés s'appelle l'amour. Parce que Ahava dans la Torah, Ahava, c'est valeur numérique 13. Et Echad, c'est valeur numérique 13. Donc aimer, c'est faire un. Maintenant, depuis 5000 ans, les hommes, ils essaient de comprendre c'est quoi faire un. Alors aujourd'hui, on pense que faire un, c'est physiquement. Si on fait un physiquement, c'est-à-dire s'il y a une conformité d'orifice qui s'applique de manière normale au niveau plomberie, ça veut dire qu'on s'aime. Tu veux voir le dessin ou la... Oui. Il y en a qui pensent que c'est niveau psychologique. C'est-à-dire que toi, tu me soutiens, tu m'aides, tu m'apportes ce dont j'ai besoin au niveau de mon équilibre. Donc il fallait épouser ton thérapeute, c'est dommage. Il y en a qui pensent que c'est au niveau financier. Bon, Hachem, tu m'assures la sécurité. Et pour les sentiments, j'ai le postier. D'accord ? Non, la Torah, elle dit que l'amour, c'est la rencontre des volontés. Maintenant, on a dit que la volonté, c'est quoi ? C'est le moteur de l'existence. Donc, moi, j'existe, toi, t'existes. Maintenant, comment on appelle la rencontre des deux volontés au niveau de l'amour ? Si ça, c'est l'existence, et ça, c'est l'existence. Ça s'appelle comment ça ? En français. La coexistence. Donc l'amour, c'est la coexistence. Ça va ? Vous allez me dire quoi tout ça pour prouver ça ? Attention, écoutez bien ce que je vous dis, parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le Shalom Bayit. J'ai vu 800 couples en consultation et peut-être 20 000 au téléphone. Écoutez-moi bien. Les trois quarts des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Parce qu'ils confondent cohabiter et coexister. Maintenant, puisque l'amour, c'est la coexistence, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Donc tu ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir d'amour entre deux personnes dont l'une d'elles fait tout pour ne pas exister avec toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, l'existence, c'est un problème personnel, mais la coexistence, c'est un problème commun. Alors, est-ce que tes problèmes d'existence personnelle peuvent polluer nos tentatives de coexistence ? C'est vrai, ça s'appelle Shalom Bayit. Pour ça que Shalom, ça vient du mot Shalem. Toi, tu dois être Shalem, tu dois être complet. Et c'est pour ça que tu es en paix. Elle doit être complète. Maintenant, si toi, t'es complet et l'autre, elle est incomplet, c'est que toi, t'es thérapeute de l'autre. Dangereux. Je sais pas si vous me suivez. Parce qu'en général, on ressent plus de la pitié que de l'amour pour quelqu'un qu'on est en train de soigner. Vous savez quoi, cette logique-là ? C'est que l'amour, c'est la rencontre des volontés. Exactement pareil dans l'étude de la Torah. On a dit qu'il faut que le Rav, il veuille. Or, la volonté, on a dit, c'est ce qui véhicule l'information, vous vous rappelez. Il veut enseigner et l'élève, il veut écouter. Donc, c'est une relation d'amour. Mais pas de l'amour, comme on dit. L'amour. Non. Amour, c'est unité. Unité. Parce qu'on a dit que Ahava, vous calculez les lettres. Ahava, c'est valeur numérique 13. Et Echad, c'est valeur numérique 13. Donc, à chaque fois qu'on fait 1, l'information, elle passe. C'est exactement comme la connexion. Tu fais une connexion. Tu prends ta radio, tu tournes, quand tu arrives à 100.1, tu es sur un radio classique. Un exemple. Tu fais une connexion internet, attends, recherche réseau, hop, connecté. Alors en français, on dit on est sur la même longueur d'onde. Tous les deux, on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est quoi la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la volonté positive d'exister pour toi. Ouais, c'est ça l'amour. C'est-à-dire maintenant, je te consacre, voilà, je suis là, je t'écoute, maintenant, voilà, je suis là pour toi. J'existe pour toi. C'est ça. Et toi, tu existes pour moi. Alors là, il y a une connexion. Maintenant, quand il y a une connexion, il y a la connexion, il y a la connaissance, il y a la volonté, il y a la volonté, il y a la solidarité, il y a la construction, il y a l'entente, tout va ensemble. Maintenant, c'est exactement pareil. Maintenant, Dieu, il veut t'enseigner la Torah. Toi, tu veux l'écouter, tu comprends. La vie, elle t'envoie des messages. Toi, tu veux les recevoir, ça passe. Mais si toi, tu dis, ouais, la vie, elle est dure avec moi. Mais baba, ça passe pas. Ça passe pas. Mais dans la vie, c'est un miroir. Si toi, tu es devant un miroir, je vous pose une question. Quand tu te mets devant un miroir, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Imagine, tu te mets dans le miroir, tu fais devant le miroir, et tu regardes. Attendez-vous. Imagine, tu te mets devant un miroir. Chut. Écoutez bien. Imagine, tu te mets devant un miroir, tu regardes dans le miroir, il n'y a rien. C'est pas possible. Attends, il n'y a personne dans le miroir. Il n'y a personne dans le miroir.
C'est pas un miroir.
Hein ?
C'est pas un miroir.
C'est ça le problème. La vie, c'est un miroir. Mais alors, pourquoi tu ne te reconnais pas dans ta vie ? Parce qu'il n'y a personne devant. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que j'ai choisi. Mes parents, c'est pas exactement ce que je pensais. Pourquoi tu ne te reconnais pas dans le miroir ? Tu refuses ton miroir, tu refuses ton corps. Oh, je suis trop gros, je suis trop maigre. Tu refuses ton mazal. Ouais, j'ai pas de chance. Tu refuses ton intelligence. Ouais, c'est pas ce que j'attendais. Tu refuses tes études. Tu refuses ton métier. Tu refuses ta femme, tes enfants. Mais tu ne te reconnais pas dans le miroir. Mais il n'y a personne dans le miroir. Il n'y a personne devant. Parce que si tu es toi-même, si tu es toi-même, eh ben le moi qui c'est ici, il se retrouve là. Alors comment tu le connais celui-là? Parce que tu te projettes. Quand tu t'habitues à te regarder là et là, et que tu essayes de faire la conformité entre là et là, il n'y a plus de malaise. Donc pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu te mens. Comme tu te mens, tu es absent. Quand tu es absent, les absents ont toujours tort. Vous savez que quand vous ne présentez pas un procès, même si vous avez un bon dossier, vous êtes planté. Vous savez ça ou non? Ça ne change rien. Tu es absent, tu es absent. Tu n'as qu'à partir à l'avance. Donc quand tu es absent, tu es absent. Et les absents ont toujours tort. Mais qu'est-ce que tu demandes? Dans le tribunal, tu demandes. Essaye, vas-y, fais un braquage et présente-toi. Donc, écoutez ce qu'on est en train de dire maintenant. Ce qui est intéressant, c'est pas la loi du tribunal maintenant. Encore une fois, c'est que si quelqu'un. Si on dit que les absents ont toujours tort, et c'est très grave. Ça veut dire que moi, je peux jamais plaindre de ma vie, je peux jamais me plaindre de ma vie si je suis absent. Ça va? Vous arrivez à me suivre ou il vous trouve? Je peux jamais me plaindre de ma vie si je suis absent. Maintenant, comment on dit en hébreu présent? Non. Bon, comment on dit le temps présent? Le temps présent. Ové. Et ové, ça veut dire aussi le verbe être. Vous savez ça? Donc ové, c'est être. Et être, c'est le présent. En français, c'est pas comme ça. En français, il y a le temps présent et il y a le verbe être. Ça n'a aucun rapport. En hébreu, non. Être et présent, c'est la même chose. Donc être, c'est présent. Donc être présent, c'est être. Présent, c'est être. C'est clair? Donc être, c'est présent. Le présent, c'est quoi? C'est être. Vous le sentez bien, là? C'est vrai? Je crois pas. Je crois pas que vous vous rendez compte de la conséquence. Parce que si être, c'est être présent, alors ne pas être, c'est être absent. C'est qu'à chaque fois que tu n'es pas toi-même, tu es absent. Dis-moi, quand tu appelles quelqu'un au téléphone 10 fois et qu'il ne répond pas pendant 3 ans, peut-être qu'il est mort. Donc la vie, elle t'appelle. Si tu ne réponds pas à la vie, tu es absent. Si tu es absent, tu dis « Oh, je comprends rien ce qui m'arrive. » Oh, ça marche pas, ça va pas, mes parents ne me suivent pas, l'examen est pas truc, et puis j'ai que des problèmes, et puis l'autre il me court après pour la dette, et puis j'ai toujours besoin de prendre du shit. Mais si t'es absent, papa, si t'es absent, la vie elle avance. Mais toi, t'es absent. Les absents ont toujours tort, t'as pas compris encore. Or, être absent, c'est quoi être absent? Eh ben, c'est ne pas être. Donc, celui qui se donne pas les moyens d'être, il court les conséquences d'être absent. Maintenant, je vous dis tout de suite, les gens absents, ils se marient avec des gens absents. Les gens absents, ils travaillent avec des gens absents. Les gens absents, ils sont manipulés par des gens présents. Tu dis, ouais, mais c'est trop facile, il abuse de moi, il me paye la moitié de ce que je vaux. Mais t'as qu'à être présent, t'as qu'à dire, voilà, je suis là, voilà ce que je vaux. T'es pas capable, tu dis, oh, j'ose pas, c'est difficile, tu sais, je manque d'expérience. Alors ferme-la et travaille. Ou t'es absent, ou t'es présent. Tu vois, mais il faut savoir se vendre. Mais pour savoir se vendre, il faut se respecter. Mais toi, tu connais pas ta valeur puisque tu te regardes jamais. Donc c'est la projection. C'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, elle donne la confiance en soi. La confiance en soi, elle donne le respect de soi. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? On parle toujours de la même chose, vous avez compris ou non? C'est seulement la manière que tu as de gérer la différence entre ton être intérieur et ton être extérieur. Alors je te dis, c'est facile. Tu vois, quand tu étais en troisième, tu disais, ouais, les exercices de maths, c'est difficile. En troisième, c'est dur. Le prof, il est méchant. Il nous donne des trucs durs et tout ça. Mais quand tu arrives en seconde, tu as trouvé que la troisième, c'était bidon. Ton petit frère, il est en troisième. Tu dis, allez, tu te prends la tête pour la troisième. Mon vieux, en seconde, on se fait éclater la tête. C'est rien, la troisième. Mais quand tu es en seconde, tu te dis, oh, c'est dur quand même la seconde, voilà, ça a changé de niveau complètement. Mais après, quand tu étais en première, tu trouvais que la seconde, elle était nulle. Alors je te pose une question. Puisque de toute façon, l'année prochaine, tu vas trouver que ce que tu fais l'année dernière, c'est nul. Alors tu n'as qu'à faire aujourd'hui comme c'était l'année prochaine. Ça va? Tu dis, mais je peux pas faire aujourd'hui. Je peux pas faire aujourd'hui comme ça l'était l'année prochaine, puisque aujourd'hui, on n'est pas l'année prochaine. Hein? Alors de vous à moi, après je vous laisse tranquille. Mais quelle différence entre cette année et l'année prochaine?
C'est les bases.
L'acquis
d'intelligence.
L'acquis d'intelligence. C'est quoi l'intelligence en philosophie? Vous savez ce que c'est? C'est la capacité de s'adapter. Maintenant, la capacité de s'adapter, comment on appelle ça en français? La maturité. Maintenant, ce qui compte pour nous, c'est quoi? C'est les exercices que tu fais ou la maturité que tu as atteinte grâce à? Bon, je vais vous faire un petit sketch, vous allez comprendre. Il y a un papa, il se prend son fils, il a eu son bac, il dit, voilà mon fils, je voulais te dire quelque chose qui me tient à cœur. Oui papa, c'est très important, je voudrais que tu t'assoies. C'est vraiment important, je voudrais que tu le prennes bien, que tu le prennes pas mal, que tu t'angoisses pas, tu ne tombes pas en dépression. Tu peux m'écouter? Non, moi je sais que ça te concerne, parce que c'est pour ça que tu tournes la tête, mais toi tu ne peux pas le savoir, parce que le mec il te manipule tellement que même toi tu ne t'en rends pas compte. Et après, quand tu écoutes ce que tu aurais dû écouter, tu te rends compte que ça te concerne, sinon ça l'a vu. Bon. Et si tu veux me dire, bah, j'en ai à foutre de ce que tu racontes, mais la différence, c'est que moi, je t'explique. Mais quand Dieu l'explique, ça laisse des cicatrices. Parce que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Maintenant, toi, tu choisis l'intensité du fil que tu vas mettre dans la bouche. Électrique, je parle. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et le père, il parle à son fils. Il dit, mon fils, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Il dit quoi? Il dit, tu sais, quand tu étais petit, tu as fait des problèmes de mathématiques, des problèmes de baignoire qui coule, des problèmes de trains qui sont partis à l'heure, qui sont arrivés à l'heure, des trains qui sont croisés, des voitures qui pèsent tant, des chameaux qui portent tant. Tu te rappelles tout ça? Il dit, oui, papa, je me rappelle très bien. Tu t'es impliqué là-dedans? Il dit, ouais. Tu les as vécues, tu as réfléchi, tu as trouvé les solutions. Ouais, papa, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réussi, tout ça. Je suis content, mon fils. Il dit, voilà, je dois te dire que tous ces problèmes-là n'ont jamais existé. Quoi, le train, il est jamais parti? Non. Quoi, la baignoire, elle coulait pas? Non, mais pourquoi je me suis angoissé à calculer alors? Quoi, le chameau, il a jamais? Non, jamais. Alors, quoi, tout ça et tout. Et tous les exos que j'ai fait en compta, tout ça, c'était rien que virtuel, ouais, tout virtuel. Oh, c'est dur. Quand tu te dis, c'est de la perte de temps alors. Je dis, non, je t'explique, mon fils. Parce que ce qui compte, c'est pas que l'exercice soit réel. Ce qui compte, c'est que la relation que tu as avec l'exercice, elle soit réelle. Alors, comme toi, tu t'es vraiment investi dans l'exercice, tu as atteint la maturité. Suivez ça? Ça, c'est l'exemple. La vie, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui nous oblige à penser que la vie, elle est réelle? Peut-être la vie, elle n'est pas réelle. Ce qui compte, c'est que la relation qu'on entretient avec la vie, elle est réelle. Maintenant, je vous dis tout de suite, aujourd'hui, la majorité des gens, ils pensent que la réalité, elle est réelle. Mais eux, la relation qu'ils ont avec, elle est virtuelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, l'argent, c'est l'argent. Hein. Le travail, c'est le travail. Il faut être concret. Hein. Le bon Dieu, tout ça, c'est des rêves. La religion, tout ça, c'est des rêves. Mais il faut être concret. Hein. Donc, eux, ils pensent que la réalité, elle est réelle. Mais la relation qu'ils entretiennent avec la réalité, elle est fausse. Ils se la jouent, ils croient, ils rêvent, ils se manipulent, ils stressent, ils prennent du shit. Pourquoi tu prends de la drogue? T'as deux jambes, t'as une tête, pourquoi ? Oh, ça m'aide, ça me détend. Ça détend de quoi, Yahmar ? Si t'es handicapé, tu prends des béquilles. Si t'es pas handicapé, tu prends pas de béquilles. Pourquoi tu marches en chaise roulante si t'as pas besoin ? Donc, tu sais pourquoi ? Parce que tu dis, la réalité, elle est dure. Mais qui t'a dit qu'elle est dure ? La réalité, elle est pas dure, c'est toi qui es faible. Donc, si toi, t'es fort, la réalité, elle est faible. Et si toi, t'es faible, la réalité, elle est forte. Comme dans la maladie. Le virus, il est fort parce que le terrain, il est faible. Si le terrain, il est fort, le virus, il est faible. C'est clair ? C'est le degré de pénétration, on l'a dit. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand moi, je veux m'investir, je veux comprendre, je veux assumer, il n'y a plus de problème. Mais ça, c'est quoi ça ? Ce que je maîtrise, on appelle Mishpatim. Ce que je ne comprends pas, on appelle Chokim. On a dit pourquoi dans la Torah, il y a des Chokim et des Mishpatim ? Je vais dire pourquoi. Parce que c'est dans la vie. Tu n'as pas remarqué que le Chok d'aujourd'hui, il est le Mishpat de demain ? Si on dit que Mishpat, c'est ce que tu comprends, et Chok, c'est ce que tu ne comprends pas. Donc ce que tu ne comprends pas en tant qu'enfant, tu vas le comprendre en tant qu'adulte. Ouais, par exemple, vous pensez que vos parents ils vous stressent parce que rentre le soir, fais attention ma fille, fais attention à qui tu parles, avec qui tu sors. Mais tu dis, mais ils me prennent la tête, ils n'ont pas confiance en moi. Mais toi, avec ta fille, tu seras pire. Toi, avec ta fille. Maintenant, puisque dans toutes les générations, c'est comme ça, c'est que les enfants ne comprennent pas pourquoi les parents leur mettent la pression, mais qu'eux-mêmes ils se surprennent à 50 ans à faire la même chose à leur fille. Pourquoi il n'y en a pas un qui a lu ça dans un bouquin et qui a dit, bon, ça va, je ne vais pas soulever mes enfants, parce que de toute façon, je ne vais pas me prendre la tête avec mon père, parce que de toute façon, je sais que je fais la même chose avec ma fille. Pourquoi personne ne fait ça ? Non ? Ça s'appelle la fracture des générations. Il y en a pas un qui dit, bon, ça suffit, je sais que mes parents le font pour mon bien. Parce que de toute façon, je sais que plus tard, je vais faire la chose avec mes enfants. 1, 2, 1. C'est ça, c'est la maturité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, tu es dans le rock. Demain, ça devient Mishpat. Aujourd'hui, tu comprends pas, demain, tu comprends. Maintenant, le truc, c'est savoir, est-ce que tu as la confiance d'accepter qu'un jour, tu vas comprendre ou non ? Alors écoutez bien ce que je vous dis. Le Rav Simcha Zisal dit que pourquoi est-ce qu'on a mis des lois incompréhensibles, des lois compréhensibles ? Parce que l'attitude que tu as envers les lois compréhensibles, c'est pas du tout la même que les lois incompréhensibles. Vous savez qu'il y a un phénomène bizarre en psychiatrie, c'est que quand tu comprends quelque chose, tu le dénigres. Mais quand tu comprends pas quelque chose, tu le respectes. Vous avez suivi ? Vous êtes fatigué ou quoi ?
Je répète. Quand tu comprends quelque chose, tu le dénigres. Par exemple, on te dit, tu sais, t'as un rendez-vous demain avec le grand patron de Ron Poulenc.
620 000 employés. C'est possible qu'il te donne une place de cadre. Alors, tu dis, purée, 620 000 employés, oh, le mec, comment je vais paraître, qu'est-ce qu'il va croire ? En 5 minutes, il va me juger, il va me scanner, il va me... Tu le connais pas. Mais si ce mec-là, c'était ton oncle, et que tu joues au tennis avec lui, tu parles avec lui, tu passes les Shabbat avec lui... Tu aurais été le voir, tu aurais dit, bon allez tonton, ça va, j'ai besoin de boulot, trouve-moi un truc, 600 000, t'en vire un, tu me prends. Pourquoi tu t'angoisses comme ça ? Pourquoi t'as peur ? C'est pas ton oncle. Moins tu connais, plus t'as peur. Ouais ? Maintenant t'es en troisième. On te parle des logarithmes tangentiels de développement sur une courbe bipolaire. Tu dis, oh là, c'est quoi ça ? Oh, bah, c'est maths sup. Mais si t'es en maths P et t'as fait maths sup, tu dis, oh bah, si ça va, la courbe bipolaire de tangentielle, je sais pas ce que je vous ai dit, rien du tout. Non, écoute-moi bien, je comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que quand tu comprends, tu dénigres, et quand tu comprends pas, tu paniques ? Pourquoi t'es impressionné parce que tu comprends pas, ouais, et tu jettes ? Enfin, comment dire ? Oh, c'est nul, oh, c'est nul, oh, c'est rien, c'est nul, ça. Regarde, deux fois. Pourquoi c'est nul ? Dis que c'est... Bon, je comprends, je comprends pas, c'est pas grave. Cette personne-là, je la connais pas. Je dis, bah, c'est pas grave. Je dis pas, bah, tu sais, les professeurs, vachement... Et quand je l'ai connu, je dis, oh, ça va comme tout le monde. Il y en a un truc, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un important, tu l'imagines tout nu aux toilettes. Tu as rendez-vous avec le grand patron de Ron Poulenc, d'accord ? Imagine, il a oublié de fermer la porte des toilettes. Le grand patron de Ron Poulenc, ouais, il a oublié de fermer la porte des toilettes. Toi, tu vas aux toilettes, tu ouvres la porte, tu vois. Oh, vous êtes là ? Ah, bah, monsieur, bah, ah, bah, finalement, vous êtes comme tout le monde, en fin de compte. Vous absorbez, vous restituez. Tu l'as démystifié. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que tu as besoin ou de croire que le type il est énorme ou de croire qu'il est nul ? Pourquoi ? Ça, je t'explique pourquoi. Parce que la connaissance, en elle-même, elle est parvée. Ouais, je sais pas, c'est pas grave. Mais autour de la connaissance, il se développe un espèce de relationnel psychiatrique qui s'appelle le malaise de l'ignorance ou la supériorité de la connaissance. Ça va ? Regardez par exemple. Si quelqu'un vous pose une question... Bonne question. Il vous donne la réponse tout de suite. Vous dites, ouais, bon, c'est une question, c'est une réponse. Ouais, bon, c'est logique, la question, c'est la réponse, la question, c'est bon. Mais si quelqu'un vous pose une bonne question, et il vous laisse mijoter pendant 10 ans, mais une question qui vous torture, et après, au bout de 10 ans, il dit, alors, la question que je te posais il y a 10 ans, c'est quoi la réponse? Vous aurez beaucoup de mal à écouter la réponse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, entre-temps, votre question, elle est devenue un problème. Elle est devenue un malaise. Elle est devenue un complexe. Elle est devenue une angoisse. Donc tu ne peux pas entendre la réponse. Parce que la réponse, ça veut dire que tu es un nul. Tu es un pauvre type. Tu n'as pas été capable de répondre. Ça veut dire que le malaise existentiel que tu as développé autour de la question t'empêche de pouvoir aborder raisonnablement la réponse. Ça va? N'essayez pas de répéter. Vous avez compris? Ça va? Ça veut dire quoi? C'est que quand je veux comprendre quelque chose dans la vie, il faut que je lutte contre le complexe que ça développe chez moi. Sinon, je ne comprends rien. Alors maintenant, je vous pose une question. Celui qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou c'est celui qui refuse de ne pas comprendre? Je répète. Celui qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou c'est celui qui refuse de ne pas comprendre?
Qui refuse ou qui accepte?
Il va essayer de comprendre.
Alors, est-ce qu'il va dire, ouais, c'est pas normal que je comprends pas, et ben, je vais comprendre, je vais réussir à comprendre. Donc, il refuse de ne pas comprendre. Ou il accepte de ne pas comprendre. Et ben, je comprends pas, ben, je comprends pas. Ben, ouais, voilà. Lequel a des chances de comprendre? Celui qui refuse de ne pas comprendre, celui qui accepte de ne pas comprendre. Hein? Levez la main ceux qui pensent que celui qui refuse de ne pas comprendre. Tu sais que parler, c'est un peu mourir. Parce que chaque mot, il correspond à une neshima. Je ne peux pas mourir deux fois juste parce que tu n'écoutes pas. C'est impossible. Je suis mort une fois. La prochaine fois, quand je reviens, tu écouteras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui refuse de ne pas comprendre, ouais, il développe chez lui une angoisse, un malaise et un complexe qui fait qu'il ne peut pas comprendre. Mais celui qui accepte de ne pas comprendre, ça veut dire qu'il a développé chez lui un niveau objectif. Ouais. Regardez. Oh, regardez, on va arrêter la théorie, je vous fais en pratique parce qu'il est tard. Regardez. Je fais un cours de maths. Qu'est-ce qu'il fait le prof de maths? Il dit, bon, nous allons poser un théorème. Alors il te pose comme ça. Il dit, maintenant, je vais démontrer. Toi, tu dis, je suis pas d'accord. Tu dis, attends, on va voir. D'abord, tu acceptes et après, on démontre. Tu dis, non, je suis pas d'accord. J'aime pas, moi, cette façon de faire. D'abord, tu démontres. Il dit, mais attends, je vais t'expliquer ce que je vais démontrer. Alors, en français, on pose une hypothèse. Mais dans l'hypothèse, tu ne comprends pas. Tu acceptes de suivre la démonstration. Donc tu acceptes de ne pas comprendre. Par contre, celui qui refuse de ne pas comprendre, il dit, moi ça me dérange de ne pas comprendre, moi ça me met mal à l'aise de ne pas comprendre, moi je veux comprendre. Je dis, ben d'accord, mais laisse-moi t'expliquer. Il faut que tu atteignes le niveau de maturité, il faut que tu t'épanouisses avec le temps, il faut que tu nourrisses l'idée. Non, je veux pas, je veux comprendre. Et tu comprends rien, pour comprendre, il faut évoluer. Pour évoluer, il faut démontrer. Non, je veux pas. Donc celui qui refuse de ne pas comprendre, il n'a aucune chance de comprendre. Celui qui accepte de ne pas comprendre, il peut comprendre. Ça s'appelle l'humilité chez les scientifiques. Ça va?
La personne qui accepte ne veut pas comprendre.
Ouais.
Elle va jamais rien comprendre.
Non. Regardez, je vais vous le démontrer.
Elle voudra pas comprendre. Évidemment, elle va comprendre, on va lui dire.
Celui qui a besoin de sortir, il sort. Faut pas qu'il se sente gêné. C'est pas le TGV. Je vais vous expliquer le principe. C'est que. On a dit que celui qui est gêné par l'incompréhension, il développe dans sa tête un complexe qui l'empêche de comprendre. D'accord? Maintenant, celui qui accepte de ne pas comprendre, il empêche l'angoisse de se développer dans sa tête. Donc, comme il est libre dans sa tête de comprendre, puisque ça ne le dérange pas, puisqu'il accepte de ne pas comprendre, mais pas par dépit, pas en disant bah, « je comprends rien, puis je comprends rien ». Non, 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 non. Je suis prêt à accepter l'hypothèse en attendant de la démonstration. Donc, je suis prêt à accepter de ne pas comprendre. Donc, comme mon esprit est libéré de mon complexe de l'ignorance, donc je peux aborder la réponse. Ça va? Maintenant, regardez bien. La relation qu'on a avec les Hukim n'a rien à voir avec la relation avec les Mishpatim. Parce que dans le Mishpat, je comprends. Par exemple, tu as compris qu'il ne faut pas voler, tu as compris qu'il ne faut pas tuer. D'accord? Par contre, les Tfilin, tu ne comprends rien. La Souka, tu ne comprends rien. On l'a demandé, pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis des lois incompréhensibles, des lois compréhensibles? Là, je réponds, c'est fini. C'est parce que la Torah, elle a remarqué que l'attitude que j'ai envers les lois compréhensibles n'a rien à voir avec l'attitude que j'ai envers les lois incompréhensibles. Parce qu'on a dit que ce que je comprends, je dénigre, et ce que je ne comprends pas, je respecte. Donc la Torah, elle veut, elle t'a mis les deux. Pourquoi ? Parce que si toi, j'ai fini, David, j'ai fini. Si toi, tu prends l'attitude de respect que tu as envers les lois incompréhensibles, ouais, l'attitude de respect que tu as envers les lois incompréhensibles, et tu l'appliques aux lois compréhensibles, tu vas commencer à comprendre la profondeur des lois compréhensibles. Mais si tu veux, là. Le pire pour l'ignorance, c'est quoi ? Ben, c'est la connaissance. Parce que quand tu crois que tu sais, tu réfléchis plus. Alors, comment les mecs, ils ont trouvé la génétique ? Parce qu'ils ont dit, ça ne suffit pas la médecine. Comment ils ont trouvé l'atome ? Parce qu'ils ont dit que ça ne suffisait pas la matière. Donc, la seule manière d'évoluer dans quelque chose, c'est d'accepter qu'au fond, tu ne comprends pas. Ce n'est pas dire que tu te condamnes à ne pas comprendre. C'est que tu t'encourages à comprendre. Dis maintenant, toi, le respect que tu as envers les lois incompréhensibles, parce que les tefillines, ça n'a aucune logique. Pourquoi ils sont noirs ? Pourquoi ils sont carrés ? Pourquoi il faut les mettre sur le bras ? Il n'y a presque pas de logique. Donc maintenant, si toi, tu prends cette attitude de respect et tu l'appliques sur les lois compréhensibles, puisque sur les lois compréhensibles, tu avais un réflexe psychologique de dire « Oh, ça va, j'ai tout compris, c'est logique. » Ouais. Donc en fin de compte, tu ne réfléchissais pas. Donc pour te préserver du réflexe de ne pas réfléchir dans les lois compréhensibles, la Torah t'a donné des lois incompréhensibles, que l'attitude des lois incompréhensibles, quand tu l'appliques sur les lois compréhensibles, ça te permet de comprendre le fond des lois compréhensibles. Ça va ? Maintenant, si vous allez me dire, mais les lois compréhensibles, j'ai pas besoin des lois incompréhensibles pour les comprendre puisqu'elles sont compréhensibles. Regardez par exemple. Tuer, c'est quoi tuer pour vous ?
Enlever la vie.
Enlever la vie ou provoquer la mort ? Si je provoque la mort, mais je n'enlève pas la vie. Je suis un tueur ? Non, il est mort à la fin. Mais j'ai fait que provoquer la mort. Mais je n'ai pas enlevé la vie, par exemple. Je mets un coup de hache dans la gorge de quelqu'un. Et un autre, il vient et il tire une balle dans la tête. Maintenant, il serait mort de mon coup de hache. Mais l'autre l'a tué avec un pistolet. Qui c'est qui l'a tué ? C'est moi ou c'est lui ? Détendez-vous. Là, vous êtes limite taliban, là. Je répète. Il y en a un qui a provoqué la mort, mais il y en a un qui a enlevé la vie. Lequel qui est le tueur ? Celui qui a enlevé la vie ou celui qui a provoqué la mort ? Voilà. Vous commencez à comprendre que c'est compliqué. C'est bien. Vous commencez à comprendre que c'est compliqué. Si quelqu'un y tue un jeune, c'est plus grave que s'il tue un vieux ? C'est la même chose. D'accord. Donc si quelqu'un maintenant, il est atteint d'un cancer généralisé et que les médecins disent qu'il lui reste 2 heures à vivre, si tu le tues, t'as fait un meurtre ?
Ouais, non.
T'as fait un meurtre. Oui, non ?
Ouais,
bah,
oui.
D'accord. Un petit meurtre. Ah, c'est une petite vie, c'est un petit meurtre. Si quelqu'un, il est très très vieux, il est en très bonne santé, mais il a 99 ans. Les médecins ont fait les scanners, ils ont vu le bouchage des artères, ils ont vu l'usure des poumons, l'usure des veines, ils ont dit il lui reste exactement 2 heures. Mais il n'est pas malade, il est en bonne santé, mais il va mourir de son âge. Avec les avancées de la technique, on va savoir. Si je le tue maintenant, j'ai tué, je le tue ou non ? Est-ce que c'est la même chose que celui qui avait le cancer généralisé ?
Non.
Oui.
Je vous demande de réfléchir maintenant. C'est la même chose ou non ? Quelle différence entre avoir un cancer généralisé qui va tuer dans 2 heures ou mourir dans vieillesse dans 2 heures ? De toute façon, la mort, c'est un cancer. On est tous atteints de ce cancer-là. Ça va ? Oui, non ? Oui, non ? Oui, non. Maintenant, si quelqu'un prend un enfant de 5 ans, il le jette par la fenêtre. Du 20e étage. Et en bas, le parterre, il est miné. C'est sûr qu'il va mourir. Écoutez-moi bien, celui-là, il va mourir dans 10 secondes. Vous le faites ressembler au petit vieux qui va mourir de vieillesse ou au cancéreux qui va mourir de la maladie.
Pareil.
Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si Dieu vous a donné un cerveau pour acheter un yaourt, restez con, ça ira bien. Réfléchissez maintenant. Ouais. Réfléchissez maintenant. Cet enfant-là qui va mourir dans 2 secondes, il ressemble plus au petit vieux qui va mourir de vieillesse parce qu'il ne lui reste que 2 heures à vivre, ou au cancéreux qui contient sa mort. Parce que pour le vieux, la mort, elle va venir. Mais le cancéreux, sa mort, elle vient de la dégénérescence de ses cellules. Donc la mort, il la contient. Alors l'enfant, il ressemble à quelqu'un qui va mourir à cause du temps ou qui va mourir à cause du parterre qui va lui éclater la tête. Ou alors à cause de l'espace espace-temps qui le sépare du parterre. C'est du temps ou c'est le parterre qui va tuer ?
Parce qu'il aurait pu s'accrocher à ce moment.
Écoutez-moi maintenant. Vous avez la question dans la tête maintenant ? Écoutez bien. Maintenant, la Gemara, dans Baba Kamat et Zayn, elle pose la question. Si quelqu'un jette un enfant par la fenêtre et qu'il y en a un, avant qu'il arrive par terre, il le tue d'un coup d'épée. Qui c'est qui a tué maintenant? Celui qui a jeté ou celui qui a tué? Celui qui l'a jeté, il voulait le tuer. Mais il n'a pas eu le temps d'accomplir son meurtre, puisqu'il y a un autre qui l'a tué avant.
Mais il n'aurait pas jeté.
Donc le deuxième, en le tuant, il a sauvé le premier du statut de meurtrier.
Ouais.
Maintenant, le premier, il a provoqué la mort?
Non.
Et le deuxième, il a tué?
Oui.
Maintenant, moi, je peux dire, mais attends, mais le deuxième, il a tué un mort. Parce que de toute façon, le gosse, il allait mourir dans une seconde. Alors que je le tue avant ou après, qu'est-ce que ça change? S'il était tombé par terre, et je le piétine à coup de hache. Mais il est déjà éclaté maintenant. Tu vas me dire que j'ai tué quelqu'un, moi? C'est manque de respect à un cadavre. D'accord. Maintenant, quelle différence que je le tue une seconde avant ou je le tue une seconde après? Non, on parle d'un cas où c'est sûr qu'il serait mort. 19 mètres de 100 mètres de haut, miné, avec des pics. Alors, écoute pas bien. Moi, celui d'en bas, je dis, mais moi, j'ai tué un mort. De toute façon, il allait mourir, j'ai tué un mort. Ouais. Attends, comment tu crois que les médecins, ils se permettent de faire une piqûre à un mec qui a un cancer généralisé? Il te dit, j'ai tué un mort. C'est pas un cas de Guémara, là, c'est ton grand-père. D'accord. Donc celui d'en bas, il dit, mais moi, j'ai tué un mort. Celui d'en haut, il dit, mais je l'ai pas tué. C'est vrai, si personne n'était intervenu, c'est moi qui l'aurais tué. Mais l'autre, en le tuant, il m'a enlevé mon statut de meurtrier. Donc celui qui est en haut, il l'a pas tué. Celui qui est en bas, il l'a pas tué. Qui c'est qui l'a tué? Qui c'est qui l'a tué? Tu vas me dire, les deux, ça n'existe pas, ça. Tu vas me dire, le premier, parce qu'il avait l'intention. Tu tues sur une intention. T'es un taliban, toi. T'es taliban. Non, mais tu tues sur une intention. Même les goïms, ils font pas ça. Ils tuent pas sur une intention. Ils te tuent sur un acte de meurtre. Toi, t'as voulu tuer le mec, il a eu une cristal d'arc avant. Bah, attends, il est mort. Mais t'avais le fusil, tu l'as mis dans la bouche, t'étais prêt à tirer, mais il est mort. C'était son heure, le mec, c'était son heure. Il est mort une seconde avant que je tire la balle. Alors, je suis un meurtrier, moi, qui dit, moi, t'avais l'intention. Donc, je vais te condamner sur une intention. Même les goïnes, ils font pas ça. Hein? Quoi? J'ai jeté le petit, mais mon acte n'a pas été finalisé.
Mais le petit, il aurait pas été là si.
Donc je l'ai mis en situation de mort, d'accord. Je l'ai mis en situation, j'ai provoqué la mort, mais je n'ai pas enlevé la vie.
Mais ça a provoqué que l'autre, du coup, il enlève la vie.
C'est vrai, mais dans la réalité, c'est ça qui s'est passé. Donc moi, je ne l'ai pas tué. Mais non, je ne suis pas en train de faire ça avec vous maintenant, pour vous torturer. Je veux juste vous montrer qu'une chose évidente que ne pas tuer, c'est pas évident. Ne pas voler, c'est pareil. Ouais, si je prends avec l'intention de garder, c'est voler. Mais si je prends quelque chose, mais sans l'intention de garder. Par exemple, voilà. Toi, tous tes papiers qui prouvent ta propriété sur tous les immeubles que tu as dans Paris, ils sont dans cette mallette. Je prends la mallette, je la brûle. Je t'ai volé quelque chose? Rien, les immeubles, ils sont là. Maintenant, le fait de ne pas pouvoir les prouver, est-ce que c'est comme si tu les as plus ou non? Tu ne peux plus prouver toutes les traces écrites que les immeubles t'appartiennent, je les ai brûlés. Je t'ai volé quelque chose?
Non.
Bah oui.
Décidez-vous, les gars.
La personne, elle a plus rien, donc on va voler.
Mais voyez, les immeubles sont là. Regarde, là, voler, c'est quoi? Toi, t'as ton t-shirt. Je te prends le t-shirt avec l'intention de garder. Quand je te désapproprie d'un objet qui t'appartient de manière prouvée, ça s'appelle du vol. C'est la loi, ça, c'est la loi. Faut apprendre d'abord, ouais. Donc, quand moi, je te prends un objet avec l'intention de garder, ça s'appelle le vol. Maintenant, si moi, je te prends rien, mais toi, tu l'as plus. C'est du vol ou non? Je t'ai pas pris.
C'est sa mallette.
Je te l'ai pas pris, mais tu l'as plus. La mallette, je la paye. Tu veux une mallette? Je vais chez Hermès, je te paye 12 000 euros, je te paye une mallette. Hermès, toute neuve. Les papiers, tu veux des feuilles de papier? Tu veux des feuilles imprimées, je t'en donne. Je lui dis, non, mais je veux les contrats. Les contrats, ils ont disparu. Qu'est-ce que tu veux? Je te dois quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que tuer, c'est pas évident. Voler, c'est pas évident. Ne croyez pas que les Khachamim, qui avaient 120 fois la tête d'Einstein, ils ont mis 200 pages pour voler, pour rien. Ben, c'est compliqué. Mais alors, comment ça se fait qu'ils ont été tellement loin dans la compréhension des notions qui sont compréhensibles? Vous savez que Napoléon, quand il a écrit le code pénal, vous êtes au courant? Mm-hmm. Vous savez? Mm-hmm. Et comment il a écrit le code pénal? Je ne sais pas. Mais sortez de la yeshiva un petit peu, ouvrez vos yeux. Ça suffit, la Gemara, la Mishnah. Vous ne connaissez rien de la vie ou quoi? Faites une kippa, ça va vous éclairer l'esprit. Napoléon, il a réuni le grand Sanhédrin, en fait c'est un ensemble de rabbins, et il a tiré du Talmud les principes de base du code pénal. Le code pénal, c'est le Talmud. Ah ouais, il faut sortir le soir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire que comment est-ce que les Chacham, ils ont été tellement loin dans la compréhension des principes? C'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de la connaissance. Ils n'ont pas dit je sais. Pourquoi ils n'ont pas dit je sais?
Parce qu'ils ont pris le respect qu'ils avaient pour les lois incompréhensibles, les hukim, ils l'ont appliqué sur les lois compréhensibles. Maintenant, quand toi tu appliques le respect de la loi incompréhensible, ça t'évite de tomber dans le piège de croire que tu as tout compris. Donc le fait de ne plus être dans le piège de croire que tu as tout compris, ça te permet de comprendre ce qui a priori était compréhensible. Ça va ? Ça va ou non ? Voilà. Maintenant, toi, tu crois que ton mari, tu le connais. C'est une erreur. Si toi, tu dis au fond, je le connais pas et je vais apprendre à le connaître, tu vas le connaître de plus en plus. Et si tu dis, ouais, tous les hommes sont pareils, tu le connaîtras jamais. Jusqu'au jour où tu vas recevoir la vie d'avocat, tu crois le connaître. Donc, si tu regardes ton mari comme un mishpat, ouais, il évolue pas. Si tu le regardes comme un chok, il évolue. Donc, tu vois que le regard du chok sur le mishpat, il permet de faire évoluer le mishpat. Ça va ? Ça va ou non ? Il y a des gens, tu crois que c'est des gens simples. En vérité, ils sont hyper compliqués. Il y a des gens, ils sont, tu crois que c'est compliqué. En vérité, ils sont simples. Donc, dans la vie, il y a des chokim mishpatim. Maintenant, dans ta vie, des fois, il y a des choses que tu comprends pas. Ben, je comprends pas. Tu comprends pas pourquoi tu as perdu ton père à 12 ans. Tu comprends pas pourquoi tu as subi un attouchement sexuel quand tu avais 8 ans. Tu comprends pas. C'est vrai, c'est grave, c'est difficile, c'est dur, c'est d'accord. Alors maintenant, ça s'appelle un chok. Maintenant, dans le chok, il y a aussi un mishpat. Maintenant, comment est-ce que toi, tu pourrais aborder la partie mishpat du chok si toi, tu refuses le chok? Alors, les psychiatres, ils vont te dire, d'abord, accepte le phénomène. Tu as été violé. D'abord, accepte-le. Et après, analyse-le. Après, prends du recul avec. Après, c'est comme si ça touchait quelqu'un d'autre. Et après, tu peux te soigner. Mais si tu refuses, donc tu vis un espèce de phénomène de d'autisme conscient sur l'événement du viol. Donc maintenant, tous les hommes sont des pourris. Donc tu fais un blocage. Donc t'as un problème vaginal. Tout ça parce que cette angoisse-là que tu avais de l'époque, ça veut dire que tu vois bien que le fait de ne pas accepter ta souffrance, ça t'empêche de la gérer. C'est pour ça que le médecin dit d'abord vous acceptez la maladie, après on va s'en sortir. Mais tu dis non, tout va très bien. Écoutez, il y a des métastases partout là, faut y aller là, faut aller en chimio. Non, tout va très bien. Donc tu vois que le chok, c'est l'acceptation. Le mishpat, c'est la perception. La capacité de percevoir, elle dépend de la capacité d'accepter. Donc dans la vie, il y a des chokim, des mishpatim. Donc dans la Torah, il y a des chokim, mishpatim. Chez les gens, il y a des chokim, mishpatim. Dans ta vie à toi, il y a une période où c'est un chok, après c'est un mishpat. Dans un couple, il y a chok, mishpat, mishpat, chok. Toi, je te comprends, moi je fais l'effort de te comprendre, après toi, tu me comprends. Alors aujourd'hui, je ne te comprends pas, demain, je te comprends. Ton fils, c'est un mishpat. Demain, c'est un chok. Aujourd'hui, c'est un chok. Demain, c'est un mishpat. Donc, en vérité, puisque Dieu a créé le monde à partir de la Torah, donc le monde entier, il est basé sur le principe du chok et du mishpat. Des lois compréhensibles et des lois compréhensibles. Donc, c'était normal que Dieu y mette les deux. Ça va ? On a dit, mais ça coûte très cher, puisque toute la communauté, encore une fois, elle est partagée. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui, avec tous les antisémites qu'il y a dans le monde, qui se permettent de marcher sans kippa dans la rue ? Comment on peut marcher sans kippa aujourd'hui ? Vous connaissez la situation mondiale ? Il y a 6 milliards d'habitants. Il y en a 2 milliards et demi qui complotent toute la journée pour qu'on meure, et 3 milliards et demi que ça ne dérangerait pas si on disparaissait. Ça s'appelle une ambiance tendue. C'est comme ça, c'est ça la réalité. Vous croyez on a des alliés. Les alliés, ils savaient où c'était Auschwitz et on leur a donné l'argent pour payer les bombes, ils n'ont pas voulu bombarder. Ça, c'est les alliés. Imagine les nazis, qu'est-ce que c'était ? Ça n'a aucun sens. En 1942, l'Angleterre, ils savaient qu'il y avait des camps d'avant, ils ont fait quelque chose. Les Américains, ils savaient depuis le début qu'il y avait des camps d'avant, ils ont fait quelque chose. Ça veut rien dire alliés, pas alliés. Ils avaient des intérêts, ils n'avaient pas d'intérêts. Ils ont bombardé à 2 km d'Auschwitz, ils n'ont pas bombardé Auschwitz. On leur a envoyé les plans. Le rabbin Aaron Kotler, il a ramassé 2 millions de dollars pour payer les bombes parce que le Congrès américain a dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer les bombes. Les Juifs ont payé les bombes. Ils n'ont pas bombardé. Et les gens d'Auschwitz, ils disaient, à chaque fois que vous bombardez, si vous condamnez le camp, vous paralysez le camp pendant 3 heures, 3 heures, c'est 3000 morts. 3 heures, c'est 3000 morts. Ils ont refusé. Au moins, le temps qu'ils construisent, qu'ils refassent la chambre à gaz. Mais il y aura des morts. Mais au moins, ça arrête là, le massacre. Ils n'ont pas voulu. C'est qui les alliés ? Faut relire l'histoire. Mais il faut le lire comme des Juifs, faut pas le lire comme des Goïs. Et que ça veut dire quoi, Rabotai ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un doit comprendre que le message que la Torah lui donne, il est beaucoup plus universel que ce que tu crois pouvoir apprendre à la fac, et encore plus à la télé, qui est une machine à fabriquer des brèves, ouais, ou à la radio, que la FP, vous savez que c'est l'agence France-Palestine, d'accord ? Non, je ne le savais pas. Vous savez que la FP, elle appartient à 66% à des comptes saoudiens. C'est ce que c'est l'AFP ? Agence France Presse. Maintenant, quand vous lisez l'AFP, vous lisez Google, après Yahoo, après Yahoo, vous lisez comment ça s'appelle ? France Info, c'est toujours les mêmes informations. C'est déjà trié. Ah là, je crois que c'est une invitation. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que vous compreniez que là, on a juste à peine développé 2 mots dans la Torah. Regardez tout ce qu'on a pu apprendre. Bon, peut-être j'ai été un petit peu agressif. Je m'en excuse.
modestement. Et le but, c'était de vous faire comprendre certaines choses, qu'Hachem y fasse qu'on comprenne de mieux en mieux ce qui nous arrive. À bientôt. Alors regardez, j'ai oublié de les amener, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire parvenir par l'école des CD MP3 avec dedans 12 cours qui vous sont offerts gratuitement. Levez la main ceux que ça intéresse. La moitié à peu près. D'accord, ça marche.